intitulé « De l'inégalité comme injustice, construction d'un imaginaire commun ». Alors avant de laisser la parole aux quatre intervenants, je voudrais d'abord remercier les organisateurs du colloque, et en particulier Raphaël et Patrick. Je voudrais remercier très égoïstement les organisateurs de m'avoir invité à animer cette table ronde. En fait, je cherchais un prétexte institutionnel pour venir assister au colloque, et donc ils ont trouvé cette solution. Merci beaucoup. Je ne parlerai donc quasiment pas, sauf à vous présenter les intervenants et à faire animer, si possible, cette discussion. Nous allons procéder un peu comme ce matin, mais peut-être avec plus de rigueur égalitaire dans la gestion du temps, de telle façon, mais on a plus de temps aussi cet après-midi, je crois, de telle façon que nous puissions entendre d'abord chacun des intervenants sur un temps très défini, très déterminé, de 15 minutes environ. Bon, si ça déborde un petit peu, personne ne vous en voudra. Et ensuite, on pourra à la fois faire en sorte que les intervenants discutent entre eux, s'écharpent peut-être même, avec un peu de chance, et surtout que la salle puisse intervenir et poser des questions à tout le monde. Alors je cite la lettre d'intention de cette table ronde, histoire de donner un petit cadrage liminaire, qui posait quelques questions. Comment se construit l'imaginaire commun des violences sociales d'une époque? Quels sont les instruments de légitimation qui participent à la reconnaissance d'une inégalité comme injustice ou qui conduisent inversement à masquer certaines souffrances sociales? Quels sont les rôles des écrivains, des artistes, experts, témoins, etc. Il y a des petites organisations de tables qui se font pendant ce temps. Non, je vous en prie. Je présenterai quand même tout le monde par la suite. Voilà. Donc, quelques questions. On pourrait aussi résumer ces questions par l'annonce qu'a faite Patrick ce matin de la table ronde de cet après-midi. Qui parle au nom de qui? C'était beaucoup plus court et synthétique. Je dois dire que ce sont des questions assez délicates, assez difficiles, et qui sont au cœur de la réflexion actuelle en littérature. On pourrait les poser aussi un petit peu autrement, et je pense que chacun va les aborder à sa manière. On pourrait poser des questions comme comment s'articulent souffrance sociale, proposition éthique et représentation littéraire. Que signifierait, pour reprendre le titre du livre de Rosan Vallon, La société des égaux, et en quoi la littérature la soutiendrait-elle? Si on allait du côté de Rancière, on dirait plutôt la communauté des égaux. En quoi la configuration littéraire est-elle un acte politique de partage du sensible ou d'engagement énonciatif, capable de postuler un monde commun, de figurer des vulnérabilités sociales, de rendre visible, on en a parlé tout à l'heure, ce que d'autres discours ne représentent pas, ou de faire saisir subjectivement des régimes d'inégalité? En quoi le souci des acteurs sociaux de rechercher la vie bonne, je fais allusion ici à un philosophe que Patrick Savidan connaît bien, Charles Taylor, en quoi le souci des acteurs sociaux de rechercher la vie bonne trouve-t-il à se représenter dans le récit, que ce soit celui du roman, des films, voire des séries télévisées, parce qu'on a Didier Bezas a vilipendé la télévision tout à l'heure, mais moi je sauverais quand même les séries américaines sur ce plan-là. Comment la polyphonie, hier Raphaël a posé cette question un petit peu lors de la conférence de Rosan Vallon, comment la polyphonie, ou plus généralement le souci littéraire de la distinction, permet-elle de ne pas confondre l'idéal de l'égalité et l'utopie ou la dystopie égalitaire? En quoi le principe de responsabilité joue-t-il dans l'imaginaire littéraire du lien social et de la justice distributive? De quelle façon, je m'arrête après, la littérature appréhende-t-elle les phénomènes d'accélération sociale dont parle la sociologie, la nouvelle théorie critique, par exemple, avec Hartmut Rosa, un autre Rosa qu'Isaac Rosa? Bon, toutes ces questions sont au cœur de la recherche actuelle en littérature, et c'est un chantier qui est vraiment qui commence d'être arpenté. Raphaël Guidet l'a fait en particulier dans un article qui est lisible sur le site de Raison Publique, aux marges du monde du travail, j'en profite pour faire de la publicité, pour une fois je ne la fais pas pour moi, aux marges du monde du travail, anthropologie littéraire de la précarité. Et alors je fais un peu de la publicité, non pas pour ce que j'ai écrit, mais pour une journée d'études que je vais organiser, je vous le dis tout de suite pour que vous veniez nombreux, que je vais organiser avec Emily Apter de NYU, je ne sais pas si vous la connaissez, le 9 novembre dans les locaux de NYU Paris sur la fiction politique. Donc je pense que ce sera une suite intéressante à ces réflexions. Voilà, donc je m'arrête là sur ces quelques questions très larges d'introduction pour laisser la parole aux, disons, trois interventions littéraires et une plus philosophique, je pense, mais évidemment, elles auront toute une dimension philosophique également. Trois interventions littéraires et une intervention philosophique dans un ordre que nous n'avons pas décidé, donc je vais le décider maintenant. On va peut-être écouter tout d'abord Sylvie Laurent. Sylvie Laurent est à la fois agrégé d'histoire, docteur en littérature américaine à Paris 4. Elle est maître de conférence à Sciences Po. Elle enseigne également, ou elle enseigne l'histoire politique et littéraire des Africains-Américains. Elle enseigne également à Harvard, à Stanford cet été, je crois. Vous faites des recherches. Alors, elle fait des recherches à Harvard et Stanford et enseigne à Columbia. Ce qui ne définit pas une hiérarchie entre ces universités. Sylvie Laurent a publié Homérique Amérique aux éditions du Seuil en 2008 et Poor White Trash, la pauvreté odieuse du blanc américain, récemment, en décembre 2011, aux presses de la Sorbonne. Et Sylvie Laurent va, et je crois que j'ai oublié de noter ici le titre, va nous parler du petit blanc, du redneck, ou du petit blanc dans le débat politique. Excusez-moi, je n'ai pas noté le titre de votre intervention.
C'est très grave. Bonjour à tous. Je vous remercie, Monsieur Boujou, de cette introduction. Je tiens également à remercier les organisateurs du colloque de m'avoir invité. Je vais commencer, je le regrette, par une petite contradiction. Mais en même temps, je vais me rattraper tout de suite après. Vous avez parlé d'intervention purement littéraire. En réalité, mon intervention ne sera pas exclusivement littéraire, puisque c'est un peu à l'image de mon parcours personnel, où j'ai commencé par des études d'histoire avant de tomber en littérature. J'ai le sentiment que la littérature et l'histoire, que finalement ce qu'on appelle une fiction vraie, comme le disait l'historien Paul Venn, et les grands récits nationaux qui sont écrits par les romanciers, en particulier pour l'objet qui est le mien, pour les États-Unis, sont finalement camarades. Ils sont en réalité voisins, et les porosités entre le monde fictionnel et des représentations et le monde à prétention empirique que sont les sciences sociales ou que peut être l'histoire officielle, en réalité ces deux mondes s'interpénètrent l'un et l'autre si bien, et c'est là que je me fais pardonner peut-être de cette première contradiction, toutes les formes de fiction nous en disent énormément sur la situation politique, culturelle et sociale du monde dans lequel nous vivons, et je suis parfaitement de votre avis que parmi les fictions contemporaines, certaines séries américaines méritent tout à fait d'être étudiées à égale dignité, et puisque l'autopromotion est autorisée dans cette enceinte, n'aurais pas peur, sans aucune modestie, de dire que j'étais la première en France à écrire sur The Wire dans un article que vous pouvez encore vous procurer dans la revue Esprit, cette revue de HBO sur la pauvreté des Noirs à Baltimore, et que l'un de mes amis et collègues à Harvard, le sociologue William Julius Wilson, enseigne un cours sur la pauvreté urbaine à travers The Wire. C'est dire si ces objets de la culture populaire peuvent gagner leur titre de noblesse, y compris dans des institutions académiques exigeantes. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'objet qui m'a toujours intéressée particulièrement dans mon approche des États-Unis, même si en tant qu'américaniste, tous les objets culturels et politiques m'intéressent, qui est la figure du sale blanc. La figure du sale blanc qui est aussi la figure du sale pauvre, du mauvais pauvre. Et avant de vous parler spécifiquement des États-Unis, qui ont évidemment leur couleur particulière et leur rapport particulier à cette identité sociale, je voudrais commencer par revenir au fondement finalement de nos sociétés occidentales sur la question de la pauvreté, car il me semble que vous avez eu des contributions remarquables ce matin, et donc je vais essayer de m'insérer dans la continuité. Finalement, depuis qu'il y a des pauvres, il y a des bons pauvres et il y a des mauvais pauvres. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que dès la Bible, on peut opposer être pauvre comme Pierre ou être pauvre comme Lazare, être pauvre de façon obscène, de façon insupportable au regard d'autrui, être une espèce de monstre de pauvreté et d'indigence, et de l'autre côté, être anobli, être une figure positive, une figure de l'émancipation de soi et de son corps, dans la figure de Pierre et du pauvre noble. Et de ces deux figures antithétiques qui ont existé dès l'origine, on tire finalement une espèce de généalogie qui est très intéressante, y compris dans la façon dont la pauvreté est représentée aujourd'hui aux États-Unis. L'ouvrage, évidemment, je pense que vous l'avez peut-être déjà mentionné, mais qui me semble le plus intéressant pour comprendre à quel moment une rupture s'est opérée, c'est l'ouvrage de Bronislav Geremek, La potence et la pitié, qui est une étude de la pauvreté, de la représentation de la pauvreté en Europe depuis le Moyen-Âge. Et ce qu'il montre très bien, c'est que la représentation du pauvre, que j'ai qualifié de pauvre comme Lazare, c'est-à-dire le pauvre monstrueux, distordu, le pauvre dont le spectacle est, comme je l'ai dit dans le titre de mon livre, odieux aux yeux de celui qui le regarde, est en réalité absolument pas une observation épistémologique. On est complètement dans le champ des représentations. Et sans doute que, en tout cas je reprends l'hypothèse de Geremek, jusqu'à la contre-réforme, l'image de la pauvreté comme quelque chose de positif, c'est-à-dire, pour aller très vite, de quelqu'un qui se défait des biens matériels pour vivre selon les enseignements du Christ, a prévalu. Les choses changent avec la contre-réforme, puisque avec Calvin, on passe à l'idée de la pauvreté châtiment. Vous savez, l'idée de la prédestination qui sera ensuite développée, mais pour faire très très simple, qui présuppose dans la théorie de la réforme, dans la pensée théologique de la réforme, que la réussite ici-bas, contrairement à ce que pensait la doctrine catholique, ne dit rien de ce que sera notre destin quand nous serons aux côtés du Seigneur. Pour les protestants et pour les calvinistes en particulier, la réussite matérielle et la réussite tout court ici-bas est le signe d'une prédestination, d'une forme d'élection. Et par conséquent, si vous n'êtes pas riche, si vous êtes enfermé dans une forme de prison, d'indigence et de misère pendant votre vie, c'est que vous êtes puni par Dieu. Ça a été, cette lecture a pu être ensuite utilisée de façon un peu extrême, dirais-je, par Max Weber avec son Éthique protestante et Esprit du capitalisme, où il explique grosso modo que la raison pour laquelle le développement économique de l'époque moderne touche principalement les pays protestants, c'est justement à cause de cette détermination des agents à prouver qu'ils étaient élus et donc à travailler deux fois plus. Il se trouve qu'un petit étudiant de Harvard, enfin un petit étudiant en doctorat qui n'est pas très petit, mais enfin vient de publier une étude il y a quelques mois, une étude empirique travaillant très précisément sur les chiffres de croissance et de développement économique en Europe sur la même époque que celle prise comme référent par Max Weber, et qu'il montre qu'en réalité c'est faux et que les pays romains catholiques ont une croissance tout à fait comparable. Mais peu importe, ce qui est vrai, c'est que pour les pays d'obédience protestante, cette idée de la pauvreté comme châtiment et de la pauvreté comme signe que l'on n'a pas été élu perdure très longtemps. Et dans ce contexte, il m'a semblé intéressant d'étudier les États-Unis, non pas uniquement avec, alors que j'étais aux États-Unis, une perspective qui serait uniquement la pensée américaine, mais au contraire, de jouer sur la façon dont la pauvreté avait, dans un premier temps, été représentée en Europe, en particulier en France, puisque ça m'intéressait aussi beaucoup, et en Grande-Bretagne. Et dans les deux cas, il y a cette dichotomie, évidemment, systématique, comme le dit Geremek, la potence ou la pitié pour les pauvres, c'est-à-dire où on les punit, on les enferme. Alors en France, on les enfermera à l'hôpital général de Paris, en Grande-Bretagne, à partir des lois célèbres de 1834, les Poor Laws, qui sont les lois qui criminalisent la pauvreté, qui considèrent que pour mériter ce qui reste d'État-providence, ou les quelques germes d'État-providence qui existent en Grande-Bretagne, il faut que les pauvres travaillent, que ça se mérite de gagner l'aide de la nation et que par conséquent, on crée, si vous avez lu, et je l'espère car c'est son anniversaire cette année, Charles Dickens et Oliver Twist, vous connaissez l'histoire de ces workhouses qui sont des endroits qui tiennent du milieu carcéral et de l'orphelinat où les indigents étaient concentrés pour travailler. Avec des taux de mortalité parfois élevés jusqu'à 80%. Enfin, c'était des choses absolument insensées, parce qu'il fallait à la fois obliger les pauvres à travailler, comme pour mériter leur soupe infâme et le gîte approximatif qu'on leur donnait, et en même temps essayer de les redresser, essayer de les réformer. Et évidemment, ce mot est intéressant, puisque réforme fait, même si dans le contexte anglais c'est un petit peu compliqué, fait allusion au fait qu'il y a un moyen de remettre les pauvres sur le droit chemin, comme le dit l'une des tantes dans Huckleberry Finn de Mark Twain, de les civiliser avec un Z. En France, il y a aussi une lecture de la pauvreté qui est tout à fait passionnante et je ne suis toujours pas éloignée de ma lecture américaine puisque j'essaye d'en montrer les prémices. Je vais laisser un petit peu Charles Dickens pour quelqu'un dont c'est également l'anniversaire, en tout cas de la publication de l'œuvre majeure qui est Victor Hugo et Les Misérables. On retrouve cette même idée qu'il y a derrière l'idée du pauvre, l'idée de quelque chose qui est dangereux pour l'ordre social. Et alors ça peut être tout à fait noble, hein, ça peut être le pauvre délinquant, le petit chapardeur qui fait les 400 coups, mais l'on retrouve aussi, et on le trouve également dans Les Mystères de Paris de Jeanne Sully, cette dichotomie entre les pauvres nobles, ceux qui travaillent pour s'en sortir, et puis finalement l'abomination de la désolation, ce que l'on appellera chez Marx le lumpenprolétariat, ou que l'on appellera dans l'historiographie américaine l'underclass. L'underclass, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pauvreté, ça n'est pas un état de dénuement matériel. Ça n'est pas, comme le dirait l'étymologie latine pauper, celui qui est sous la protection d'un puissant. Ça n'est même pas une condition, ça devient un état culturel, ça devient un être. Ça devient finalement, selon un processus de culturalisation de la pauvreté, quelque chose que vous êtes presque biologiquement. Et ce qui m'a intéressé très vite, si je reviens à la Grande-Bretagne dans la littérature victorienne, c'est que lorsque les écrivains décrivent la pauvreté, je prends écrivain au sens large, des romanciers, des historiens, parfois on utilise le mot classe pour parler des pauvres et parfois on utilise le mot race. Et on voit apparaître dans la littérature du 19e siècle britannique le mot race comme pour signifier qu'il existerait une sous-catégorie d'hommes qui, parce qu'ils ont déchu à un état de pauvreté tel, seraient finalement ontologiquement, racialement différents. Et par exemple, dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Stevenson, finalement l'histoire d'un bourgeois qui se transforme en un malfamé, en quelqu'un qui vient des bas-fonds, toujours cette fascination hein, de l'aristocrate britannique pour les bas-fonds, pour les taudis noirs de Londres, il y a cette description de la peau qui devient un peu jaune, un peu bronzé, c'est étonnant. Comme si en devenant pauvre, on se basanait. Et ça, évidemment, c'est très intéressant pour moi qui, cette fois, je traverse l'Atlantique et j'arrive aux États-Unis. J'arrive dans un pays qui s'est, une nation qui s'est construite par une poignée d'hommes, alors qu'ils ne se définissaient pas comme blancs, qu'ils se définissaient comme des dissidents, mais qui très rapidement se sont construits comme le regard, l'autre du sauvage. Le sauvage qui est d'abord l'indigène, qui habitait le territoire avant l'arrivée des Européens et qu'il a fallu combattre. Et puis, très rapidement, le noir, l'autre noir. J'aime à rappeler à mes étudiants que les premiers noirs sont arrivés sur le territoire américain avant les pèlerins du Mayflower. Mayflower, 1620, les 17 premiers noirs qui débarquent dans la colonie de Virginie, c'est 1619, un an avant. Donc les Noirs ont une antécédence dans leur américanité qui est assez significative. Très rapidement, et sans tomber dans les post-colonial studies ou une vision très très policée de l'histoire, l'idée de la suprématie blanche s'est installée dans la conception même de la vie politique du pays, puisque les premiers fondateurs étaient blancs et qu'ils étaient appelés, par-delà leurs différences confessionnelles, à diriger le pays, eh bien les gens de couleur était naturellement destiné à remplir les catégories inférieures de la société américaine. Donc les gens de couleur, au début c'est simple, ce sont les Noirs. Ça se compliquera lorsque, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, de nouvelles vagues d'immigrants, dont on ne sait pas très bien de quelle couleur ils sont, du genre irlandais catholique, du genre juif ashkénaze, du genre grec, du genre italien, arrivent et prétendent eux aussi à la blancheur. Mais enfin, restons dans les premiers siècles. Il y a l'opposition entre les esclaves africains et les colons qui habitent et qui travaillent la terre. Donc finalement, c'est assez simple. Aux blancs, le pouvoir et la direction du pays. Aux noirs, l'assujettissement et la fonction de classe, finalement. On ne dit pas le terme, il n'y a pas de classe aux États-Unis. On a laissé les classes sociales, et si vous avez écouté Pierre Rosanvallon, vous en connaissez long sur la vision tocquevillienne de l'égalisation des conditions et sur le fait que l'une des grandes passions américaines au moment de la fondation, c'était surtout « Dieu nous garde des distinctions sociales et des hiérarchies ». Nous fuyons la vieille Europe, celle des distinctions sociales, celle qui fait que un pauvre et un riche ne se rencontrent jamais. Nous, ici, sur cette terre vierge, disponible à l'infini, nous avons une autre confrontation, la civilisation contre le sauvage. Mais entre nous, il n'y a pas de classe sociale. Et plus encore, l'Américain idéal, l'Américain fantasmé, c'est celui du peuple. C'est l'homme de rien, c'est Davy Crockett. C'est l'homme semi-sauvage, qui se nourrit des quelques bêtes qu'il tue de ses propres mains, qui n'a pas de richesse et qui vit simplement d'une espèce de confrontation presque charnelle avec la wilderness, ce désert et cette forêt qui fait peur en même temps. Donc l'Américain idéal, c'est un homme de peu. Et les premières grandes voix de l'histoire américaine, même si la plupart de ceux qui ont rédigé la Déclaration d'indépendance puis la Constitution étaient des bourgeois, des planteurs très riches, mais en réalité très vite, il y a une espèce de glorification qui sera portée à son pinacle au moment de la présidence d'Andrew Jackson, de l'idée, vers 1815 à peu près, l'idée qu'un homme de peu, un homme du peuple, pouvait incarner l'Amérique, s'il est blanc. Or, il y a un petit problème très vite. C'est que dès le XVIIe siècle, il y a des voyageurs. Donc on découvre, donc au début, on n'a que quelques colonies, et puis le territoire dont on part de l'est du pays, et puis on s'enfonce dans les profondeurs du territoire. Et donc on va voir, et sur quoi on tombe ? On tombe sur des Indiens. Alors parfois on négocie avec eux, ils nous donnent de la dinde, on se fait un petit festin, ça s'appelle Thanksgiving, donc c'est très bien. D'autres fois ça se passe moins bien, on est obligé de les exterminer, c'est pas de chance. D'autres fois on leur prend leur terre en leur donnant vaguement un demi-fusil, un demi-verre d'alcool, et puis on s'imagine, bref. Mais on tombe aussi sur autre chose. Et William Burroughs, qui est un grand explorateur, un des premiers à aller dans le sud au XVIIIe siècle, tombe sur des tribus de blancs, mais pas des blancs indiens, des blancs d'origine européenne, des blancs anglais qui sont là, et qui sont d'une pauvreté, et qui vivent dans des conditions qui l'horrifient. Donc lui, il voit ça, il dit, je suis arrivé au sud, donc là j'ai franchi une frontière invisible, mais qu'est-ce que c'est que ces hordes de blancs, d'origine anglo-saxonne, qui vivent comme des pauvres, pire, qui vivent comme des noirs, ou pire, comme des indiens. D'abord comme des Indiens, ensuite pire comme des Noirs. Et dans ses premiers écrits, ses récits de voyage, il dit la seule explication, c'est que ces Blancs qui sont là, qui ont été les premiers finalement à aller explorer le territoire, à force de vivre à proximité des Indiens, ont dû se métisser un peu. Ils ont dû aller s'acoquiner avec les Indiens, ce qui explique que leurs mœurs se sont dégradées et leur pauvreté est finalement un état culturel qu'ils ont choisi. Mais s'ils sont métis, ils ne sont pas tout à fait blancs. Et d'emblée, on a l'idée, dans le discours des représentations, que si un blanc est extrêmement pauvre, c'est qu'il existe une certaine forme de dégénérescence biologique, c'est que le sang n'est pas très pur, c'est qu'en réalité, on n'est pas complètement blanc. Évidemment, tout ça est très intéressant, puisque on invente à partir de ce moment-là, pour comprendre cette réalité qui contredit le mythe de la supériorité des Blancs, la supériorité naturelle, innée de ceux qui ont été capables contre les animaux sauvages, les intempéries et toute l'adversité à fonder ce pays, on constate qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc on invente des histoires. Et qui est-ce qui invente ces histoires ? Les écrivains. Et je voudrais maintenant en passer au concept qui est celui de mon livre et qui est le point qui m'a intéressé le plus particulièrement, qui est ce concept de poor white trash. Alors comme à chaque fois que je fais une présentation sur mon travail, je dois d'abord m'excuser que le titre du livre ne soit pas traduit. Donc c'est le compte-rendu de ma thèse. Et déjà pour ma thèse, je n'avais déjà pas réussi à le traduire. Il n'y a pas de traduction en français. J'ai tout essayé. Raclure blanche, vermine blanche. J'avais tenté blanc ordurier jusqu'à ce que je me fasse littéralement étrier le jour de la soutenance de thèse. Donc j'ai considéré que blanc, je trouvais ça pas mal, j'étais assez fière de moi. Parce que trash, ça veut dire ordure. Donc white trash, ordure blanche, j'avais fait une espèce de néologisme. Bon, mais vous voyez l'idée. White, c'est blanc, et trash, c'est rebut, poubelle, déjection, infamie. Et ce mot en anglais, white trash, il a une histoire intéressante. C'est une insulte, hein, je vous invite à vraiment ne jamais prononcer ce mot aux États-Unis. C'est comme dire le mot nègre à un noir. C'est très exactement l'équivalent. Et en plus, ce qu'on appelle le N-word, c'est-à-dire la traduction anglaise et américaine de nègre, est beaucoup plus péjorative encore que nègre, puisque nous avons toute l'histoire de la négritude et du mot défi, comme le disait Césaire, qui donne une espèce de puissance à ce mot qui n'existe pas aux États-Unis. Vous me notez quand il faut que je...
Oui, d'accord. Je ferai des signes.
Faites-moi des signes cabalistiques. Les premiers à utiliser ce mot sont les Noirs. De façon très intéressante. On est en 1830, dans la région de Baltimore. Déjà, vous voyez, Baltimore, The Wire, enfin, là, c'était bien avant. Vous savez qu'il existe une hiérarchie au sein du monde esclavagiste entre les Noirs qui travaillent dans la maison des planteurs, qui s'occupent des enfants, comme vous avez peut-être lu La caisse de l'oncle Tom de Harriet Beecher Stowe, ou bien qui font le service à table, enfin bref, qui sont les esclaves de la maison qui ont un statut social sensiblement supérieur aux esclaves qui travaillent le coton, l'indigo ou le tabac dans les Caraïbes. Et... Le récit qui est rapporté par la femme d'un planteur de Géorgie est que les esclaves domestiques de sa très très belle maison, regardant par la fenêtre, voient à côté, dans le champ d'à côté, des blancs, des paysans blancs, courbés, le dos cassé, dans les champs, à travailler comme des chiens, sur une terre qui n'était même pas la leur. Toute la journée, ces blancs, au point de se faire griller la nuque de coups de soleil, redneck, les coups rouges, à cause de la difficulté de leur travail, et les noirs domestiques, à qui on explique insensiblement qu'ils sont la lie de la société, qu'ils sont vraiment tout en bas de tout en bas de tout en bas, regardent ces blancs et se disent, mais attendez, eux, ils sont en dessous de nous. Vous nous dites que blanc signifie la condition de ceux qui sont appelés à diriger, mais eux, est-ce que l'étiage de la société américaine, ça n'est pas eux? Et donc ils regardent avec mépris ces blancs et ils disent « these poor white trash ». Je crois que Nicolas Duvoux, ce matin, vous a parlé de cette catégorie très particulière de la population qui est celle qui est juste en dessous, juste au-dessus de la catégorie la plus inférieure. Et cette catégorie sociale qui veut avoir une espèce de préséance aussi fragile et aussi fine soit-elle, elle trouve cette préséance sociale par le fait de trouver plus déchu que soi. Et les Noirs voient dans la condition de ces Blancs sans terre la preuve que peut-être il existe un mensonge au sein de cette histoire que l'on raconte aux États-Unis. Alors là, ça devient très très compliqué pour la société blanche. Parce que si les Noirs, dont l'asservissement est le secret de l'ordre social, sans parler de l'ordre économique et culturel du pays, si les Noirs commencent à comprendre qu'on a inventé la race pour justifier l'asservissement des uns, et la domination des autres, si en réalité, comme le montre le travail de Toni Morrison, on a inventé la race pour faire en sorte que les plus pauvres des Blancs n'aillent pas s'allier, comme ce fut le cas en 1619 lors de la Bacon's Rebellion, un moment où les Blancs les plus pauvres prennent les armes avec les Noirs contre les riches, parce qu'ils sont soumis à la même aliénation et à la même exploitation. On comprend qu'il faut faire quelque chose, donc on invente la race, on invente la haine raciale, pour s'assurer que les Blancs, y compris les plus misérables, auraient toujours ce petit plus que l'historien afro-américain W.E.B. Du Bois appelle le salaire symbolique. Peut-être que les Blancs les plus pauvres sont très 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 pauvres, peut-être qu'ils sont pauvres comme Lazare, et toute la littérature américaine regorge de ces descriptions de ces corps tordus, de ces blancs qui n'ont plus de dents, à qui il manque des doigts. Vous avez peut-être vu Deliverance, hein, éventuellement, qui est dans une, à partir du roman de James Dickey, qui a donné un film qui a beaucoup marqué en 1979, où vraiment l'abomination de la désolation du sauvage blanc, c'est cette espèce de, d'être monstrueux dans les montagnes qui est représenté, d'ailleurs j'avais fait un commentaire du film, quasiment comme un trisomique. C'est-à-dire qu'il y a dans les traits du visage quelque chose qui montre qu'il est pauvre. On le voit qu'il est pauvre, qu'il est dégénéré. Il y a quelque chose de consanguin entre eux. Donc cette haine du pauvre, cette haine de celui qui, par son indigence, macule l'ordre social, ce pauvre blanc, elle va se traduire par deux choses, par le fait qu'il soit insulté, que son état soit culturalisé, et donc on l'appellera aux États-Unis pour white trash. Et il est évident que la bourgeoisie ne sera pas la dernière à utiliser cette haine de classe pour la jouer, assurer sa domination sociale sur les Noirs. Tout ce que je vous raconte là, ce sont des mythologies. C'était d'ailleurs l'objet de mon premier livre. Je vous parle de mythes, de représentations sociales, donc absolument pas de sciences sociales, ni d'objectivité empirique. On parle de la façon dont les gens se construisent symboliquement en regard d'un autre, pour s'assurer qu'on n'est pas aussi bas que ça. Et donc c'est pour ça que très rapidement, il m'a semblé que le travail que j'avais à mener pour comprendre cette figure mythologique, cet épouvantail de la pauvreté qui est le poor white trash, je ne pouvais la comprendre que si j'allais à la littérature, à ce que les Noirs avaient écrit, à ce que les Blancs avaient écrit, mais pas dans des récits objectifs, puisque la honte d'être pauvre, la honte d'être un pauvre blanc, le stigmate de la pauvreté n'est pas une réalité empirique, mais une question de représentation. C'est pour ça que mon travail porte sur la littérature depuis le XVIIIe siècle, mais principalement depuis le début du XXe siècle jusqu'à nos jours, où j'essaye de montrer comment, sans le dire, une forme de haine de classe existe aux États-Unis. Alors c'est paradoxal, il n'y a pas de classe, mais il y a une haine de classe. Puisqu'il n'y a pas de classe, on racialise et on culturalise l'état de pauvreté. D'où l'idée que si aux États-Unis vous êtes pauvre et blanc, sous-entendu que vous n'avez pas l'excuse d'être noir ou d'être un basané, quelqu'un de couleur, et en sachant qu'il y a toute une gradation et toute une représentation compliquée, c'est que c'est de votre faute, que vous ne vous donnez pas les moyens. On retrouve la dichotomie calviniste, c'est que vous faites en sorte, parce que vous vous complaisez dans votre état de dégradation morale, dans votre sous-culture qui fait que vous êtes complaisant vis-à-vis de cette punition divine, alors l'état-providence n'est pas nécessaire, puisque vous êtes responsable de votre condition et que fondamentalement, on ne peut pas sauver votre âme. Donc ça n'est pas la peine de venir vous aider, ça n'est pas la peine de vous envoyer des bons repas ou une assurance sociale, et je finirai juste avec une idée et une date. La plus grande des hontes pour les pauvres aujourd'hui aux États-Unis, c'est de recevoir ce qu'on appelle les food stamps, qui sont des bons alimentaires. Et mon livre se termine sur l'étude d'Eminem, qui est l'incarnation contemporaine, ce rappeur qui incarne la pauvreté blanche contemporaine. Et il dit dans ses textes à quel point le pire du pire, c'est d'avoir à montrer qu'on mange avec des bons alimentaires. Eh bien, cette aide sociale, elle n'a été instaurée aux États-Unis qu'en 1977. Ça n'est qu'en 1977 qu'on a considéré qu'il était possible qu'il y ait quelque chose comme une solidarité collective vis-à-vis des plus pauvres, même si fondamentalement on condescend à donner cette aide sociale. Et je reviens à l'idée de Guéremec de la potence ou la pitié. Je vous remercie.
Bien, merci beaucoup. Et je suis finalement, ma position n'est plus si confortable que ça, parce que je suis obligé de vous arrêter pour permettre à chacun de parler. Merci beaucoup pour cette rapide traversée de l'espace américain et de l'envers de sa mythologie. Pierre Rosanvallon, en effet, avait évoqué le modèle révolutionnaire américain comme l'un des modèles fondamentaux de notre réflexion. Et vous avez repris très, très utilement cette question et en la liant à l'invention de la race, enfin l'invention de la figure raciale. On va revenir sans doute dans la discussion sur ces questions, l'âme de classe en particulier, qui est une question qui peut intéresser chacun d'entre nous. Mais je voudrais laisser la parole pour l'instant à Christine Baron, qui est professeure de littérature comparée ici à l'Université de Poitiers, qui a travaillé beaucoup sur les questions de théorie littéraire, sur l'œuvre de Calvino, sur la littérature contemporaine en Italie, en France. Elle a publié plusieurs ouvrages, La pensée du dehors en 2007, La littérature et son autre en 2008. Il y a un ouvrage en préparation, un ouvrage collectif, Littérature, droit et transgression, qui va être publié bientôt aux éditions La Licorne au Cure, je crois, c'est ça. Et Christine Baron va donc poursuivre ou reprendre d'une autre façon la question du, non pas forcément du petit blanc ou du blanc qui n'est pas complètement blanc ici, mais va reprendre d'une autre façon la question de, du réfugié, je crois, dans son intervention. Donc. Merci.
En réalité, je vais parler de celui qui n'appartient pas même à ce que Pierre-Rose Envallon appelle la société des égaux, puisqu'il s'agit du non-citoyen, de celui qui n'est pas reconnu comme citoyen, du sans-papier et de son statut à travers quelques exemples empruntés à la bande dessinée. Alors, le propos de cette communication a en fait pour point de départ un constat. C'est le fait que depuis la Révolution française se pose la question de la représentation des exclus, de la figuration du peuple à travers l'exception du hors-la-loi à celle du migrant dans les récits de fiction contemporains, l'injustice particulière, le déni de reconnaissance et de légitimité ont pris la forme, dans certains récits du XXIe siècle, d'une mise en scène violente de ce que, par ailleurs, Agamben appelle le rapport de l'État et du non-État. Celle-ci peut être matérialisée par une forme d'invisibilité du sujet dont la figure la plus radicale est celle du sans-papier ou de l'apatride. Et cette invisibilité a eu pour contrepartie, une surexposition de ce qu'Agamben appelle aussi la vie nue, sous diverses formes. Or, la vie nue est bien la forme de vie propre au sujet sans droit qui a déplacé la ligne de démarcation vers cette frontière entre citoyenneté et non-citoyenneté. Alors tout d'abord, je voudrais faire un rappel en guise d'introduction qui a trait au fait que le peuple est d'emblée l'origine d'un malentendu, la représentation du peuple. Et Pierre-Rose Envallon le soulignait dans le peuple introuvable. Dès la fin du XVIIIe siècle, les difficultés d'accommodation qui résultent de la situation révolutionnaire font que s'articulent très rapidement déficience de la représentation politique, crise de la représentation sociale et malaise de la représentation esthétique. Et de la distinction du peuple et de la foule chez Hugo aux difficultés qu'aura, par exemple, Chénier, dramaturge, à représenter les mouvements de foule dans ses pièces, ayant recours à l'allégorie qui est d'ailleurs le plus classique des procédés, ce qui indique bien une forme de malaise par rapport à cela, les repères manquent. Et c'est également ce que soulignera encore à propos du peuple dans son ouvrage éponyme Michelet, qui en 1846 observe que les écrivains ont, lorsqu'ils ont voulu représenter le peuple, d'abord tourné leur regard vers le bizarre, l'exceptionnel. Ils ont détourné les yeux vers le violent, l'exceptionnel. Ils ont cru, je cite, que les effets d'art les plus infaillibles étaient dans le lait moral. L'amour errant leur a semblé plus poétique que la famille, le vol que le travail et le bagne que l'atelier. Fin de citation. Alors à cette fiction de l'ouvrier voyou, Michelet va opposer une autre fiction tout aussi peu crédible, qui est celle du peuple vertueux, du peuple qui épargne, de la raison simple et éclairée par la lumière naturelle. Mais le peuple dont il est question est encore un peuple de citoyens, issus de la Révolution. Qu'en est-il de la représentation du peuple et particulièrement du peuple pauvre, lorsque ce qui est en question, c'est la représentation politique elle-même? C'est son absence, c'est sur ce déficit absolu que se greffe la question de la représentation, sur ce déficit de la non-citoyenneté. Alors il semblerait que la littérature soit relativement muette, à quelques exceptions près que je n'aurais pas ici l'occasion de rappeler, mais que ces questions soient surtout prises en charge par le cinéma et par la bande dessinée. Et c'est en réalité particulièrement un texte que je m'intéresserai dans cette communication, qui est Paroles sans papier de J.P. Pardon. Voilà, donc c'est à travers cet exemple que je questionnerai cette question du statut du réfugié, qui est d'abord l'expression d'un paradoxe propre au pouvoir moderne que décrit Agamben, quand il évoque à la fois le rapport d'inclusion et d'exclusion que le réfugié entretient avec le pouvoir. En tant que non-citoyen, sans papier, il est effectivement en dehors de l'État. Et cependant, il n'est pas dans un rapport de pure extériorité au pouvoir. S'il n'a pas d'existence politique, comme non-citoyen, il est susceptible, par cela même, d'être saisi par la loi, d'autant plus violemment qu'elle s'exerce sur lui avec cette violence spécifique, qui est celle, par exemple, du camp de rétention. Dès lors, ce qui est en rapport avec le politique ne peut être l'existence civique, puisque le sans-papier en est dépourvu, c'est son corps lui-même, ce qu'Agamben appelle sa vie nue, et lorsque, en particulier au chapitre 1 de la deuxième partie de Mosaquet, sur l'ambivalence du sacré, il évoque la question du banc, c'est très exactement la situation dans laquelle le réfugié rattrapé par l'état de droit se trouve, le moment où le politique coïncide exactement avec le biopolitique, où le corps nu, non politisé, du réfugié sans droit, est ce sur quoi pèse la loi dans toute sa rigueur. On peut remarquer d'ailleurs que tout ce qui est revendiqué actuellement par des minorités sous la forme de droit, droit à la différence, droit au plaisir, conduit l'État à légiférer sur la vie elle-même et implique de facto à travers cet acte la lutte pour une reconnaissance des différences, certes, mais en même temps, cela offre au pouvoir souverain une plus large assiette sur laquelle s'exercer, lors même qu'il était question de s'en affranchir. Et il se trouve que la figure du réfugié est précisément prise dans ce paradoxe, me semble-t-il. Alors, pris dans cet étau, le citoyen est en puissance dans une contradiction qui est celle effective, pour le coup, du réfugié. Il faut encore souligner que le réfugié naît, c'est en tout cas mon hypothèse, peut-être que l'exacerbation d'une situation plus largement partagée par le citoyen confronté au pouvoir étatique, dans un moment de crise de légitimité des démocraties modernes, que décrit d'ailleurs Pierre-Rosan Vallon en ces termes, dans la légitimité démocratique, la notion de majorité a quant à elle perdu son ancienne consistance lorsqu'elle pouvait être assimilée à l'évidence d'un nombre justifié dans ses droits. Un nombre justifié dans ses droits. Voilà, je reviendrai là-dessus peut-être en fin de parcours. Alors, pour revenir à la situation du réfugié, sa représentation politique étant, par la nature même de son statut ou de son absence de statut nul, c'est par son caractère privatif qu'elle va se caractériser. Arendt, d'ailleurs, dans Les origines du totalitarisme, décrit le caractère paradoxal de cette situation qui devrait incarner l'homme des droits dans son universalité, qui marque au contraire une crise du concept. En reliant le déclin de l'État-nation à celui des droits de l'homme au début de la deuxième partie de son essai, elle met le doigt sur la difficulté essentielle qui a trait à cette question de la vie nue. Dès que le XVIIIe siècle, en posant les droits inaliénables de l'homme fondés dans sa nature, est créé en même temps le nœud du biopouvoir, pourrait-on dire. L'homme est déclaré seule source de la loi, mais cet homme est membre d'un peuple. Or, l'identification des droits de l'homme aux droits des peuples commence à faire problème quand apparaissent précisément les hommes sans État. Alors les droits supposés être ceux de l'homme comme homme manquent aux hommes qui ne sont précisément hommes comme sans appartenir à telle ou telle nation. Et de fait, par-delà les droits particuliers, la résidence ou la protection d'un gouvernement, c'est le droit au droit qui va être tout simplement perdu. N'ayant pas d'existence légale, donc l'homme n'existe plus comme homme. Cette perte est absolue et sans réparation. Et c'est ce qu'indique cette mise en scène obsessionnelle de la privation de droit, qui est l'objet de la bande dessinée dont je vais vous dire un mot tout de suite, Parole sans papier, qui est un collectif dont je vais présenter quelques vignettes. Alors tout d'abord, je voudrais rappeler ce point qui concerne le tiers dans la représentation, le rôle du tiers, l'intervention d'un tiers, en évoquant ces mots dans la dialectique négative d'Adorno. La critique du privilège devient elle-même parfois un privilège, tant le trait du monde est dialectique, et ce serait une fiction de supposer que dans des conditions sociales, particulièrement de l'éducation qui bride, qui estropie de maintes manières les forces productives originelles, qu'avec l'indigence qui règne dans le domaine de l'imagination et de l'éducation, tous pourraient comprendre, ou du moins se rendre compte et représenter, dit-il. Donc, au fond, cette représentation du réfugié passe par sa parole, mais c'est bien le dessinateur ou l'auteur de la bande dessinée qui prend en charge entière, en quelque sorte, cette parole, avec l'ambiguïté que peut comporter le procédé, notamment lorsqu'il s'agit de témoignages au nom de personnes qui ne savent ni lire ni écrire, par exemple, Ces textes sont pour la plupart écrits pendant la première personne, réalisant ainsi, au fond, le volet politique de cette injonction adressée dans les années 80 par Calvino à la littérature, dans un texte intitulé « Monde écrit et monde non écrit », où il disait que si elle sert à quelque chose aujourd'hui, c'est à donner voix à ce qui n'a pas de voix. Alors, ce que donne cette parole barrée, pourtant présente dans les bulles, a d'abord pour contrepartie, c'est le premier constat qui s'impose, une forme de disparition du corps. Cette disparition peut être totale, comme dans la série des vignettes qui sont consacrées à Mariem, qui est un cas d'esclavage domestique. Et de manière métonymique, la réification du corps de l'esclave a pour contrepartie ici une surexposition des objets fonctionnels du service, des tâches qu'elle doit quotidiennement accomplir. Mais il y a d'autres dispositifs rhétoriques à l'œuvre dans cette bande dessinée, et l'ellipse de la violence et des sévices corporels, par exemple, que subit cette personne, est mentionnée dans un décalage total du texte avec l'image, par moment. Les châtiments corporels vont être évoqués, par exemple, avec pour illustration, entre guillemets, un aspirateur. Le déni d'éducation par le trou de la bombe de l'évier, la pénurie culturelle et affective suggérée par les vignettes monochromes et en deux dimensions. Ce qui va conduire, ce qui sera le deuxième volet de cette présentation, à un second constat, qui est en fait la question de l'empêchement dans la représentation. Beckett évoquait en ces termes la naissance de l'art abstrait. Il semble absurde, dit-il, de parler comme Kandinsky d'une peinture libérée de l'objet. Ce dont la peinture s'est libérée, c'est de l'illusion que cet objet se laissait représenter. Que reste-t-il de représentable? Il reste à représenter les conditions de cette dérobade et peint ce qui empêchait de peindre. La représentation va donc se donner sous la forme de ce paradoxe propre aux réfugiés qui a trait à son invisibilité même. Et qui fait qu'il est souvent exclu de la vignette lorsque l'image est ce qu'il voit lui-même, comme dans une sorte de caméra subjective, où il est la figure, où il peut devenir à l'occasion la figure dans son corps même de la loi qui le traverse, au sens littéral du terme, dans une autre image, qui est celle-ci. Alors je vous prie d'excuser le caractère un peu artisanal de cette bande dessinée que j'ai photographiée avec les moyens du bord, et donc c'est peut-être pas toujours très visible, enfin j'espère tout de même un petit peu. Et donc on voit ici que le personnage est la figure dans son corps même de cette loi qu'il traverse, au sens littéral, puisque c'est un homme dont le corps disparaît peu à peu, absorbé sous la forme des papiers, qui précisément lui manque pour accéder à la citoyenneté. Il devient ce corps de papier sans papier, au terme d'un certain nombre de démarches complexes que décrit l'ensemble de la planche. De même, le petit Brésilien, dans le texte d'Alfred, alors je crois que c'est un petit peu plus bas, voilà. Une jeunesse clandestine apparaît dans le métro comme un corps transparent. Transparent aux autres, et la symétrie des images des deux vignettes qui sont côte à côte exhibe deux mondes étanches l'un à l'autre. L'invisibilité visée par l'enfant ne te fait pas remarquer, surtout, on pourrait te demander tes papiers dans le métro, et subie à la fois par l'immigré. Et d'autre part, dans l'ensemble des planches, de nombreux personnages sont vus de dos, comme si le lecteur lui-même représentait une menace. On pourrait m'identifier. Alors le désir de reconnaissance réciproque et l'intersubjectivité qui constitue la base de la vie sociale est ici totalement inversé. C'est-à-dire le migrant se caractérise par cette peur de la reconnaissance, par l'impossibilité de cet échange, et au seuil de cet échange impossible apparaît franchi dans une autre bande dessinée de Sacco qui évoque cette fois-ci le débarquement des migrants. Voilà, et qui décrit leur arrivée sur une plage où littéralement les regards se croisent sans s'échanger. Alors, les migrants arrivent sur une plage où se trouvent des touristes. Ces touristes représentent bien évidemment les blancs privilégiés qui sont en train de jouir tranquillement de leurs vacances. Ces migrants arrivent sur une plage où ils ne souhaitaient pas arriver, puisqu'il s'agit de Malte et qu'ils souhaitaient plutôt débarquer dans le sud de l'Italie. Et là, on voit bien effectivement ces deux mondes qui ont peine à communiquer. Mais ce qui marque ces courtes histoires, c'est cette présence au cœur des récits et des images de cette extériorité à la vie civile, de cette capacité des formes du pouvoir à se maintenir en rapport avec cette extériorité, la peur de la police, l'angoisse d'être reconnue, la violence policière rarement montrée comme telle, mais en même temps omniprésente. Et c'est en particulier dans la BD de Peters qui s'intitule « Pourquoi la France ?» que l'enfant tchétchène devenu muet est porteur de cette puissance qui réalise en rêve l'effectivité de la loi. Sur le corps vivant du migrant par les vexations, l'enfermement, les sévices. Voilà, elle se trouve ici, cette vignette. Donc l'enfant, en réalité, est devenu muet à la suite de l'arrivée de sa famille en France, des tracasseries administratives, de ce qu'il a vécu en Tchétchénie. Il reconstitue mentalement, donc là, la bande dessinée donne une sorte d'accès à la vie mentale du personnage, toutes à travers les feuilles que l'on voit éparses autour de lui, qui sont ces dessins que le psychanalyste lui demande de faire pour exprimer son mal-être, qui sont les dessins même qui récapitulent l'ensemble de la bande dessinée comme s'il en était lui-même l'auteur. Alors donc là, on a véritablement un effort de prise en charge, en quelque sorte, du dedans, de la parole du migrant. Et significativement, d'ailleurs, on retrouve ce paradoxe. Elle est prise en charge, cette parole, par l'enfant, par l'infance, par celui qui est privé de la langue maternelle, enjoint à se taire pour ne pas attirer l'attention, et finalement devenu muet à force de traumatismes endurés. Alors, cette BD allégorise aussi l'égalité abstraite de la Déclaration des droits de l'homme. On a au centre de chacune des vignettes le lieu où se délivrent les papiers, la préfecture de police. Et l'atteinte au corps vivant et à la voix matérialise cette condition duelle qu'évoque Agamben, c'est-à-dire, encore une fois, la capacité du pouvoir à se maintenir en rapport avec son extériorité qui se donne dans le double mouvement qui anime les planches de la page. Corps à la fois inclus et exclu, visible et invisible. Voilà. Et alors, il faut noter que cette bande dessinée s'accompagne de tout un appareil critique. Il y a mention depuis les années 2000 des lois qui aggravent la situation des migrants, une préface, des chiffres qui indiquent la situation des migrants, ce qui leur confère ou pas une existence légale, l'ensemble étant accompagné d'une bibliographie sur l'immigration clandestine et d'un résumé effectivement des lois qui se rapportent à une catégorie de personnes pour lesquelles il n'existe que deux discours disponibles, celui de l'abstraction légale, d'un discours généralisateur, d'une part, et d'autre part, à l'autre bout de la chaîne, en quelque sorte, celui du témoignage direct. Alors, au-delà de son caractère informatif et parfois un peu pédagogique, cette présentation suscite une remarque, c'est que l'aggravation de la situation des sans-papiers est corollaire d'une augmentation globale d'un fichage systématique, non seulement de ceux-ci, mais de l'ensemble de la population. Là, j'en viens au dernier point de cette présentation. Cette singularité est-elle aujourd'hui le propre du sans-papier ? La manière dont les textes de Rancière récents posent la question de la représentation et de la citoyenneté questionne cette fois-ci l'intervalle qui sépare le sujet de droit, le citoyen, de celui qui est privé d'existence légale. Or, cet intervalle, semble-t-il, tend à se réduire depuis le début du XXIe siècle et particulièrement depuis les attentats du 11 septembre. Alors, ce sont des artistes dans ce collectif qui ont pris parti pour des sans-papiers dans les textes que nous avons évoqués. Ce qu'ils évoquent, c'est cette vie nue qui est à la fois ce qu'est le fondement du droit, la vie nue insacrifiable, et la vie nue constamment sacrifiée dès lors que l'État prend le parti, soit dans le cadre des sociétés, des totalitarismes, de laisser vivre et de faire mourir, soit dans le cas plus ambigu, version démocratique des sociétés, de faire vivre et laisser mourir. Or, Agamben nous le rappelle, les conditions d'exercice du pouvoir, la manière dont le pouvoir se rapporte aux citoyens dans son être biologique, sont fondamentalement les mêmes que ce qui caractérise son rapport à cette extériorité pure qui est la figure du sans-papier. La figure de l'état d'exception, telle qu'il la définit, c'est celle du banc. La relation d'exception, dit-il, est une relation de banc. Ce qui est mis au banc n'est pas seulement placé en dehors de la loi, ni indifférent à elle, il est abandonné par elle. Abandonné, c'est-à-dire exposé, et risqué au seuil, dans ce seuil où la vie et le droit, sur ce seuil, pardon, où la vie et le droit, l'extérieur et l'intérieur se confondent. Or, il s'agit là de la structure originaire même du citoyen. Le pouvoir souverain, en se ménageant sans cesse la possibilité de décréter l'état d'exception, on a bien vu ce qu'il en était en 2001 aux États-Unis, se maintient en relation avec la naturalité de la vie. L'exception, c'est la forme originaire du droit. Ce qui conduit le philosophe à l'affirmation à première vue inacceptable pour nos sociétés d'une solidarité profonde entre eux et d'une solidarité principielle du point de vue du droit entre totalitarisme et démocratie. La souveraineté ne décide pas de ce qui est licite ou pas, mais de l'implication du vivant dans la sphère du droit, selon la théorie de Carl Schmitt, sur laquelle s'appuie Agamben, pour décrire justement ce qu'est l'état d'exception, quelle que soit par ailleurs la forme de l'état considéré. C'est ça qui nous trouble particulièrement, sans doute. Alors cette forme de souveraineté est celle-là même qui consacre ce divorce entre société civile et pouvoir, tel que le décrivent Rancière dans La démocratie inachevée et Pierre-Rosan Vallon dans La légitimité démocratique. Et dans ce dernier essai à propos de la désacralisation dont les formes du pouvoir sont actuellement l'objet, l'administration entre autres, l'auteur note ceci, qui est particulièrement, me semble-t-il, intéressant pour ce qui nous occupe. L'idée de peuple, dit-il, ne renvoie plus aujourd'hui à celle de plus grand nombre, à l'existence d'une masse positive. Ce qu'on peut appeler le peuple apparaît sous les espèces d'une somme négative, perpétuellement mouvante, de déni de reconnaissance, de privation de droits, de situation de précarité. Il est pour cela moins figurable, renvoyant à une sorte de généralité invisible. Il est pour cela moins figurable. Donc comment injustice, du point de vue du droit, l'injustice du point de vue du droit devient injustice du point de vue de la représentation. Le peuple est l'image virtuelle que dessineraient dès lors ces négativités du social. Il se détache en ce nouveau sens de la notion arithmétique et monolithique de majorité. C'est à l'inverse, en fait, à partir de la notion de minorité que s'appréhende cette question aujourd'hui. Et cette définition d'un âge nouveau, qui est celui des singularités, signe une solidarité profonde, peut-être, entre récits de réfugiés et récits de toute vie, qui se définirait dès lors dans la non-coïncidence avec la forme de l'État qui caractérise, depuis les années 80, la relation entre l'individu et le pouvoir, et ce divorce ou ce fossé grandissant que décrivent précisément les œuvres de Rancière et de Rosan Vallon. Alors, années 80, desquelles datent également les premiers fichages systématiques des migrants. Voilà, je voulais dire encore un certain nombre de choses, mais on en parlera peut-être ensuite dans le débat, par souci de...
Dans la discussion, ouais. Pour laisser du temps à... En effet, on va laisser du temps à la discussion par la suite. Donc, merci beaucoup. Agamben n'était pas encore entré dans le débat. L'idée d'extériorité pure introduit un élément un peu différent ou très différent des questions qui ont été soulevées jusqu'à présent. Je remarquerai d'emblée, mais ce sera peut-être l'objet d'un dialogue par la suite, que la question de l'invisibilité, qui est une question très américaine aussi, hein, en particulier sur le plan racial, cette question de l'invisibilité a traversé l'ensemble des interventions jusqu'à maintenant, opérant un lien plus particulier entre inégalité et injustice, et peut-être qu'on pourra y revenir dans le dialogue par la suite, mais je laisse la place tout de suite à l'intervention de Jean-Paul Angélibert, qui est aussi professeur de littérature comparée à l'université de Bordeaux 3, spécialiste de Coetzee. Il s'est consacré à l'étude de la littérature contemporaine, à l'étude des représentations du travail dans la littérature contemporaine pour un autre volume de La Licorne apparaître également, qui s'intitule « Dire le travail 1980-2010 », co-dirigé avec Stéphane Bicchialo. Et Jean-Paul Angélibert va également publier très bientôt un essai intitulé « Apocalypse sans royaume, politique des fictions de la fin du monde », reprenant ainsi un thème qui a été beaucoup étudié depuis la fin du XXe siècle dans la littérature de façon nouvelle. Jean-Paul Angélibert va nous parler pendant 20 minutes maximum des romans de... Tu as droit à 20 minutes, mais pas plus. Des romans de Lydie Salver, une littérature engagée à l'ère post-politique. C'était le titre du moins que j'avais, mais peut-être que c'était un état intermédiaire.
C'était un état initial, ça a beaucoup changé. Et je me suis aperçu que pour parler d'Lydie Salver, j'aurais besoin de remonter dans le temps et de situer ces romans dans une histoire relativement longue. Donc je vais remonter bien en deçà de la littérature contemporaine. Alors mon spectre temporel sera beaucoup moins grand que celui de Sylvie Laurent, mais il sera un petit peu étendu quand même. Et je vais essayer d'opposer deux manières de montrer les inégalités dans le roman. c'est-à-dire deux manières d'articuler littérature et politique. Et en simplifiant un tout petit peu, mais j'espère pas trop, j'essaierai de montrer de quel clivage esthétique la littérature française en particulier, mais sans doute pas seulement, hérite aujourd'hui. Alors, c'est-à-dire que cette communication, elle s'inscrit un petit peu dans le sillage de ce qu'on a entendu ce matin dans les communications d'Anne-Laure Bonvalot, dans cette tentative d'articuler forme littéraire et pensée de l'égalité, et à la suite aussi de ce que disait Didier Bezas sur la prospection de nos vies, et je répète l'intérêt que j'ai accordé à cette expression de prospection qu'il a employée plusieurs fois ce matin, et que j'entends de plusieurs manières. Alors mon parcours, et donc je vais m'éloigner un petit peu de Lydie Salvaire pour l'instant, j'y arriverai tout à l'heure, commence avec George Sand. Alors on sait que George Sand a développé des idées socialistes dans les années 1830 grâce à la lecture et à la fréquentation du penseur socialiste Pierre Leroux et du compagnon menuisier agricole Père Diguier, qu'elle a lu et qu'elle a connu. Et ces idées ont trouvé leur traduction littéraire dans un beau roman. Je souligne qu'il est beau parce que tout à l'heure, j'aurais peut-être l'air d'ironiser un peu sur ce roman, mais je l'aime beaucoup. Un roman qui s'intitule Le compagnon du Tour de France, qu'elle a publié en décembre 1840. Ce roman, je vais en lire quelques extraits, pas trop long pour rassurer le président de séance. Ce roman, il raconte la naissance d'un amour improbable entre un jeune et bel ouvrier menuisier qui s'appelle Pierre Huguenin et Iseute, bien nommée, petite fille du comte de Villepreux, le seigneur du village. Alors, dès le début du roman, le portrait de Pierre Huguenin fait du jeune ouvrier une incarnation du beau idéal. Et évidemment, c'est ça, dans un premier temps, qui va nous intéresser. Je lis le début du second chapitre du roman. Pierre Huguenin était le plus beau garçon qu'il y eut à 20 lieues à la ronde. Ses traits avaient la noblesse et la régularité de la statuaire. Il était grand et bien fait de sa personne. Ça vous intéresse beaucoup. Ses pieds, ses mains et sa tête étaient fort petits, ce qui est remarquable chez un homme du peuple. Et ce qui est très compatible avec une grande force musculaire dans les belles races. Enfin, ses grands yeux bleus ombragés de cils noirs et le coloris délicat de ses joues donnaient une expression douce et pensive à cette tête qui n'eût pas été indigne du ciseau de Michel-Ange. On voit que ce portrait veut d'abord imposer deux idées, évidemment la beauté parfaite du jeune homme qui correspond aux canons éternels de la statuaire et l'exception à sa classe. Il est remarquable que cette beauté, alliée à l'intelligence que manifeste l'expression douce et pensive qui vous a retenu, surgissent chez un homme du peuple. Le roman rompt donc avec l'association classique du personnage populaire et du registre comique ou trivial. Tout son enjeu sera justement de penser un héros ouvrier, c'est-à-dire de montrer qu'un homme du peuple peut se représenter dans les mêmes termes qu'un homme bien né. Et pour George Sand, il y va d'une certaine idée de l'égalité. Cet enjeu est important pour elle et il ne va pourtant pas sans poser problème. Un problème esthétique qui apparaît dès le paragraphe suivant. Lisons la suite du portrait. Ce qui paraîtra singulier, et ce qui est positif, c'est que Pierre Huguenin ne se doutait pas de sa beauté, et que ni les hommes ni les femmes de son village ne s'en doutaient guère plus que lui. Ce n'est pas que dans aucune classe l'homme naisse dépourvu du sens du beau, mais ce sens a besoin d'être développé par l'étude de l'art et par l'habitude de comparer. La vie libre et cultivée des gens aisés les met sans cesse en présence des chefs-d'œuvre de l'art ou en rapport avec des types qu'autour d'eux ils voient appréciés par l'esprit de critique répandu dans la société. Leur jugement se forme ainsi. Et ne fût-ce qu'au frottement de l'art contemporain qui, pauvre ou florissant, conserve toujours un reflet de l'éternelle beauté, ils ouvrent les yeux sans effort à un monde idéal, au seuil duquel le génie comprimé du pauvre se heurte longtemps et trop souvent se brise sans pouvoir pénétrer. Ici sont posés ensemble égalité des sens et inégalité de conditions. Tous les hommes, si je reprends George Sand, naissent munis du sens du beau, mais tous ne peuvent pas le cultiver. Les gens aisés forment leur goût au contact d'une société habituée à étudier et comparer des objets variés et raffinés, tandis que les pauvres restent au seuil de l'idéal. Leur génie est comprimé, c'est un mot que George Sand utilise très souvent, par le manque d'expérience de l'art et les contraintes de leur existence. L'égalité fondamentale de tous les êtres humains se heurte à la forme de la société, c'est-à-dire aux privilèges de quelques-uns. Ainsi, le jeune ouvrier ne se doute pas de sa propre beauté et les femmes de son village non plus. Il sera pourtant le héros de ce roman qu'on lit souvent comme le manifeste de la conversion de George Sand au socialisme utopique. Ici, la méconnaissance des vertus qu'il porte ne signale pas seulement que le héros en devenir n'est pas encore lui-même et doit encore accomplir sa destinée pour mériter son titre, elle signifie bien plus une vision de l'histoire. La classe ouvrière est appelée à réaliser ce que George Sand appelle ailleurs la rénovation de l'être humain et la réconciliation de toutes les classes dans l'unité sociale. Elle écrit cela dans un essai qui paraît moins de 2 ans après son roman. Vision chrétienne autant que socialiste qui fait de son héros un prototype. En écrivant son roman, George Sand s'inquiétait de la plausibilité de son histoire et elle cherchait à savoir s'il avait pu exister un homme tel qu'elle l'avait conçu. Mais en même temps, elle revendiquait pour son roman un rôle tout autre que de documenter un processus historique. Je la cite. « On peut idéaliser, je crois, une réalité dont la grandeur ne s'est présentée à nous que sous des formes vulgaires. » Et c'est le rôle de ce qu'on appelle la poésie. Le roman social est donc poésie, et en tant qu'il l'est, il doit montrer la grandeur qui n'apparaît pas encore dans le monde. Il possède un rôle prophétique, car la noblesse encore secrète que seule la poésie peut aujourd'hui dévoiler accomplira le plan divin et sera alors révélée aux yeux de tous. Ce mot de poésie, pour désigner la nature de son œuvre, renvoie à la poétique classique et à sa hiérarchie des genres qui ignore le roman. On sait que la hiérarchie des genres correspond à une hiérarchie des personnages et, in fine, à une hiérarchie politique. La division des sujets nobles et des sujets triviaux correspond aux attributs des personnages nobles d'une part, des vulgaires de l'autre, en accord avec la hiérarchie politique de l'Ancien Régime. Le portrait de Pierre Huguenin s'inscrit dans cette structure hiérarchisée et y introduit, à l'évidence, un discours prophétique. L'égalité sera réalisée quand les hommes du peuple auront conscience de leur propre beauté. Le problème d'une telle fiction est qu'elle avoue son retard sur son propre message. Elle prophétise l'égalité au moyen d'une poésie qui consacre l'inégalité. En se conformant aux principes de la poésie classique, la poétique classique plutôt, elle perpétue l'idée d'une inégalité naturelle et rend pour le moins problématique la réalisation de l'égalité. L'intrigue du compagnon du Tour de France est pleinement romanesque et c'est revendiqué par George Sand. L'ouvrier amoureux d'une aristocrate au grand cœur converti à ses principes égalitaires pourrait l'épouser. Pourtant, le héros à la fin du roman doit renoncer à son amour et aux bénéfices matériels qu'il en tirerait, car il a peur que la richesse acquise ainsi, sans doute mal acquise, le corrompe. Je lis un passage qui se trouve dans les toutes dernières pages du roman et qui explique ce refus de l'amour par le héros à qui tout était accordé. Il chercha ce qu'il ferait de bon, de sage et de vraiment utile le jour où il entrerait en possession de la fortune, et il ne trouva en lui qu'incertitude et perplexité. Sa nature, toute mystique, toute tournée à la contemplation méditative, excluait cette activité pratique, cette habileté spéciale, ce savoir-faire, cette arithmétique en un mot, qui serait nécessaire au degré le plus éminent à l'homme généreux pour pratiquer le bien dans une société livrée au mal. Par fidélité à ses principes, donc, Pierre Huguenin doit renoncer. Or, ce refus de l'amour est poétique en même temps que politique, comme le narrateur le précise immédiatement après. L'âme fervente de Pierre ne pouvait admettre que le renoncement poétique et quasi chrétien aux joies de la terre. Il avait vécu de cela. Il y avait puisé sa vertu, sa poésie et son amour. Il ne pouvait pas les abjurer en un instant. Il avait soif de faire une grande chose. Elle se présentait, il n'hésita pas. Il fut plus romanesque que tous les romans qu'il avait lus. L'opposition du bien et du mal recoupe celle du romanesque et du réel. La seule grande chose que l'ouvrier puisse faire, c'est rester à sa place, puisqu'il est dépourvu de l'arithmétique qui lui permettrait de réconcilier l'idéal et le monde. Au dénouement, le poème avoue l'impossibilité de penser l'égalité dans la réalité. L'idéal est renvoyé à un avenir indéterminé où les progrès de l'éducation des prolétaires leur permettront de travailler à sa construction. Il ne suffit donc pas que le roman affirme des idées socialistes pour penser l'égalité. Autrement dit, l'égalité en littérature est moins affaire de politique que de poétique. Pour trouver une poétique de l'égalité, il faut se tourner vers d'autres auteurs. Ceux qui n'ont pas besoin d'affirmer des idées politiques, mais tournent le dos à la poétique classique pour inventer un roman qui récuse la hiérarchie des genres, celle des personnages, et un roman qui promeuve le quelconque pour repenser le beau et le désolidariser de l'idéal. Jacques Rancière a décrit cette poétique en l'appelant « régime esthétique des arts ». Il s'agit d'une poétique qui s'oppose terme à terme à la poétique de la représentation dont George Sand est encore prisonnière. Elle n'a pas besoin de hisser l'ouvrier dans le genre noble pour le rendre représentable, puisqu'elle abolit la hiérarchie des genres. Elle n'a pas besoin de l'héroïser, puisqu'elle fait de l'ordinaire, du quelconque, du quotidien, et non plus du beau idéal, les sujets de l'art. L'homme du peuple peut devenir un personnage égal à tous les autres, non pas parce que sa beauté égale ou surpasse celle de l'aristocrate ou du bourgeois, mais parce que l'ordinaire devient beau comme trace du vrai. C'est une formule de Rancière dans le partage du sensible. Il ne s'agit donc plus de revendiquer la grandeur de l'ouvrier, mais de représenter la vérité du peuple. On sait comment Flaubert, par exemple, décrit la rencontre d'un petit bourgeois et d'une fille de fermier. Donc, je vais quand même prendre le temps de relire un passage célébrissime que vous allez reconnaître. Il arriva un jour vers 3 heures. Tout le monde était au champ. Il entra dans la cuisine, mais n'aperçut point d'abord Emma. Les auvents étaient fermés. Par les fentes du bois, le soleil allongeait sur les pavés de grandes raies minces qui se brisaient à l'angle des meubles et tremblaient au plafond. Des mouches, sur la table, montaient le long des verres qui y avaient servi et bourdonnaient en se noyant au fond dans le cidre resté. Le jour qui descendait par la cheminée, veloutant la suie de la plaque, bleuissait un peu les cendres froides. Entre la fenêtre et le foyer, Emma cousait. Elle n'avait point de fichu. On voyait sur ses épaules nues de petites gouttes de sueur. L'ordinaire, ce n'est pas que des mouches montent le long des verres, mais que toutes les notations de ce paragraphe soient placées exactement sur le même plan. Le renversement poétique que Flaubert effectue ici consiste à estomper la vulgarité de la scène paysanne en traitant à égalité tout le visible. La parataxe sépare les sensations de Charles les unes des autres, comme des phénomènes indépendants, comme s'il n'y avait ni de cause, ni d'effet, ni même d'action, mais seulement des choses qui se donnent, des choses brutes, mates, dans la grande indifférence du monde. Ce n'est même pas Charles qui voit les épaules nues d'Emma, c'est un « on » qui ne renvoie à personne, qui ne peut renvoyer à personne dans la pièce. La fille du peuple n'a rien d'exceptionnel, elle n'est même pas belle, elle n'a rien de remarquable, et la scène n'a rien de romanesque, car le romanesque suppose une hiérarchie des choses et des personnages et une logique de l'action. Ici, l'action se résorbe en pathos, et chaque parcelle du visible requiert exactement la même attention. Le style que Flaubert définissait, on le sait, comme une manière absolue de voir les choses, répudie les canons de la beauté et réalise en même temps l'égalité de toutes les choses. Au-delà ou en deçà de l'égalité des sujets et des conditions sociales, c'est une égalité plus élémentaire, une égalité moléculaire qui intéresse Flaubert. Et ce qui paraîtra justement scandaleux à la critique bourgeoise de 1857, c'est précisément cela, cette forme littéraire de l'égalité qui est une réfutation radicale de toutes les hiérarchies et qui n'a rien à voir avec les positions politiques de l'auteur qu'on connaît par ailleurs. La littérature de ce qu'on nommera avec Rancière « âge esthétique » commence avec ce geste de refus et cette mise à plat du visible et du disible, mise à plat, littéralement, mise à égalité de tout le visible. Et elle ne cesse depuis 2 siècles d'inventer de nouvelles formes de l'égalité et de s'articuler ainsi à la politique. Alors, je vais essayer d'en venir à aujourd'hui pour respecter le titre que j'avais donné provisoirement à ma communication et de le faire assez vite pour ne pas me faire rappeler à l'ordre par notre président. J'ai essayé de dresser une opposition entre une littérature qui pense l'égalité comme horizon inaccessible parce qu'elle représente des personnages, des actions, des conflits, en intégrant, en acceptant les hiérarchies du monde social, et d'une littérature non militante, mais capable de récuser toutes les hiérarchies parce qu'elle ne se conforme pas aux conventions des genres. Et cette opposition, je pense, existe toujours. Un exemple connu, la première catégorie qui vous a peut-être été remis en mémoire par le passage de son adaptation à la télévision très récemment, c'est le roman de Gérard Mordillat, Les vivants et les morts, avec son héros épique et ses péripéties qui sont tout droit sorties de Zola. Et dans la seconde catégorie, je vois une version contemporaine de la poétique de l'égalité dans les romans de Lydie Salvert. Donc un écrivain qui raconte moins des histoires qu'elle ne fait résonner des paroles. Or, ces paroles sont celles de personnages empêchés ou de personnages sans voix. Et dans cette contradiction, elle trouve le moyen de mettre en œuvre l'égalité fondamentale sur le fond de laquelle apparaissent scandaleuses toutes les inégalités. Alors, très rapidement, je parlerai de La Médaille, qui est un roman de 1993, dans lequel Lydie Salvert fait alterner deux types de discours. Le prétexte narratif de ce roman, c'est une cérémonie de remise de médailles à des salariés militants dans une usine qui fabrique des automobiles. À la tribune, se succèdent des cadres qui prononcent des allocutions et remettent des médailles, et des ouvriers récompensés qui remercient. Deux types de discours, prononcés dans le même contexte, sur la même scène, mais dont les tenants et aboutissants, évidemment, sont tout à fait différents. L'inégalité, c'est ici de matrice. Elle porte la différence de régime des allocutions des patrons et des réponses des ouvriers. Et l'égalité n'est pas l'objet d'une revendication, c'est l'évidence qui sous-tend l'alternance des discours. L'évidence d'une même humanité, d'une égale dignité absolument élémentaire, est pourtant battue en brèche par l'univers du travail et par la domination spécifique mise en scène par le passage alterné des uns et des autres sur la même scène. L'intérêt de la mise en scène des discours est évidemment de rompre avec la logique des genres, c'est-à-dire avec une logique de l'intrigue, de la psychologie, pour ménager des effets de sens qui ne doivent rien à aucun genre et qui naissent de l'hétérogénéité des discours rigoureusement mis en parallèle. Et ainsi, on peut entendre dans le début d'une allocution, je ne citerai qu'une ligne et demie, le cynisme du patron et la voix de l'écrivain confondus. Donc c'est le début d'un discours de remise de médaille. Le temps de la misère est révolu. Germinal, l'Assommoir, tout ça c'est du passé. Finito. La page est tournée. L'avenir nous tend les bras. Déclaration cynique dans la bouche du patron. Cette affirmation est aussi une proclamation esthétique sous la plume de la romancière. Le temps de Zola est fini. Dire les inégalités aujourd'hui ne peut plus se faire selon le protocole du roman naturaliste qui a pour partie restauré depuis le début du XIXe siècle et dans ses avatars, dans ses épigones ensuite, la poétique de la représentation avec son association du populaire et du trivial et son usage du roman comme genre de l'ordinaire. Au contraire, Lydie Salvert sape les hiérarchies de la représentation pour mettre en scène les inégalités. Alors, pour caricaturer un tout petit peu, si Mordillat fictionne une lutte réaliste parce que son style accepte les inégalités que ses personnages dénoncent, Salvert invente des fables de la confrontation des égaux. Dans Les Belles Âmes, ce sera mon dernier exemple, un roman de Lydie Salvert paru en 2000, elle imagine un voyage organisé postmoderne dans les cités les plus défavorisées d'Europe. Y participe une dizaine de clients aisés qui voyagent avec un guide qui s'appelle Jason, mais il faut prononcer Jason, et sa petite amie Olympe, qui sont tous les deux issus d'une de ces cités. C'est le moyen de faire parler les belles âmes venues découvrir la misère, mais pas seulement. Lydie Salvert s'est aperçue, en écrivant, qu'elle ne pouvait pas se contenter de dérouler les idées reçues de ses personnages. Olympe s'imposait à elle, c'est ce qu'elle dit dans de multiples entretiens qui sont parus après le roman. Olympe s'est imposée, c'est-à-dire que la découverte était à double sens, et c'est ce dont l'écrivain s'est aperçu en écrivant. Comme les touristes découvrent le ghetto, le ghetto découvre les riches. La découverte est à double sens. Et la découverte la plus intéressante, c'est la seconde. Le roman renverse la perspective qu'il semblait se donner d'abord. La fable promettait un court voyage vers au pays du peuple, mais l'écriture le retourne en découverte par le peuple des beaux parleurs qui viennent le voir. D'où encore un texte à plusieurs lectures, un métatexte, comme l'extrait de discours que je citais tout à l'heure, un texte qui dit ce qu'il fait autant qu'il raconte une histoire. Donc je vais vous lire un tout petit passage. Olympe observe une des touristes qui s'appelle Mademoiselle Faulkircher. La présence de Mademoiselle Faulkircher lui révèle qu'il est d'autres existences que la sienne. Beaucoup plus raffinée, plus exigeante, délicate, tout autre, des existences d'une autre essence, hors d'atteinte sans doute, et desquels, en tout cas, elle se sent séparée par un infranchissable abîme. Mais cette révélation, Olympe l'éprouve sans pouvoir nullement l'exprimer par une phrase. Olympe redevient muette et fait des tortillons à ses cheveux, comme chaque fois que les mots se refusent à sortir de sa bouche. La véritable misère a ceci de singulier qu'elle ne peut jamais sortir de la bouche de ceux qu'elle afflige, ce qui rend les choses compliquées, pour ne pas dire impossibles, car nul ne peut parler à la place d'un autre. Or, c'est cela même à quoi je m'autorise, parler au nom d'Olympe, avec le sentiment très assuré que, le faisant, j'obéis à Olympe ainsi qu'à moi-même. Fin de citation. Dans plusieurs entretiens, Lydie Salvert a expliqué qu'Olympe était celle qu'elle-même, Lydie Salvert, aurait pu devenir, si l'écriture ne l'avait pas sauvée. Donc dire la véritable misère, c'est impossible, et le texte le fait quand même. La beauté de ce texte, elle réside justement dans l'aveu d'Olympe, ou l'aveu qu'Olympe et l'auteur ne font qu'une. Mais ce n'est pas Olympe qui est le porte-parole de l'auteur, c'est le contraire. L'auteur est le porte-parole d'un personnage fictif. Et l'auteur ne peut être le porte-parole que de cela, d'un personnage fictif. C'est la seule condition à laquelle on peut être le porte-parole d'un personnage sans voix. Écrire, c'est tenter cet impossible de faire advenir une parole qui ne peut pas s'exprimer. D'être à la fois soi et un autre. Et le style de Salvert, comme je parlais tout à l'heure du style de Flaubert, se tient là, faire advenir l'égalité des sujets parlants dans une mise en scène de l'inégalité. De sorte qu'apparaît un double scandale, scandale de l'injustice d'un côté, scandale du surgissement d'une égalité oubliée, déniée et muette de l'autre. Donc j'ai essayé d'opposer deux écritures de l'inégalité de manière un tout petit peu caricaturale, une qui raconte des histoires, se plie aux conventions des genres pour affirmer l'égale dignité de ses personnages et qui doit projeter la réalisation politique de l'égalité dans un avenir indéterminé, et une qui refuse les conventions des genres et leur hiérarchie calquées sur celles de la société et qui se donne les moyens de réaliser immédiatement dans le texte l'égalité impossible et fondamentale en même temps de tous avec tous. La première promet une révolution politique, la seconde réalise une révolution esthétique, elle est silencieuse, mais rien ne dit qu'elle soit sans effet. Merci.
Bien, merci beaucoup pour cette belle lecture rancièrienne de la postérité du régime esthétique, si on reprend ses catégories, la gloire du quelconque, l'accession de l'anonyme au rang de sujet d'art, enfin toutes ces thématiques qui recoupent nos questions. Rancière d'ailleurs considérait, me semble-t-il, que la communauté des égaux n'était pas un but à atteindre, mais quelque chose, une supposition à poser ou à reposer sans cesse. Il était question dans cette communication de la façon dont la forme littéraire justement suppose cette communauté plutôt qu'elle ne la vise. En tout cas, Ruben Augien, directeur de recherche au CNRS en philosophie morale, auteur d'un trop grand nombre d'ouvrages pour que à cette heure-ci je les cite tous.
Vous voulez dire d'un trop grand nombre en général.
Non. Et je cite juste le dernier publié dont on a beaucoup entendu parler, l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine et autres questions de philosophie morale expérimentale. Avant, il y avait l'éthique aujourd'hui, le réalisme moral, théorie ordinaire de la pauvreté, etc. Et Ruben Augien va évoquer donc une question peut-être plus brutale que celle que nous avons soulevée jusqu'à présent avec des précautions plus littéraires, la justification morale des inégalités. Il est temps de poser cette question frontalement.
Bon,
merci.
En 20
minutes également,
oui,
parce
merci
que
pour cette présentation.
Sylvie Laurent doit partir à 16h34.
Ça se négocie, ça se négocie.
Dans une voiture blanche.
En fait, je voulais aussi remercier Patrick pour cette invitation. Après vous avoir entendu, j'ai l'impression que c'est un exercice qui risque d'être très difficile. Mais bon, c'est son habitude de me proposer ce genre d'exercice auquel je ne suis pas du tout sûr de pouvoir répondre. Si vous voulez, évidemment, il y a différentes formes de philosophie, différentes formes de philosophie morale. Certaines ont un lien assez profond, intime avec la littérature. C'est le cas des auteurs que vous avez cités, comme Agamben ou Rancière. Et d'autres formes de philosophie, comme celle que je pratique, est plutôt analytique, est plutôt attirée par le modèle des sciences et finalement n'a pas de lien profond avec la littérature. Alors, j'ai trouvé vraiment passionnant tous vos exposés. Je me demandais à chaque moment, qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter ? Est-ce que ce que j'ai préparé n'était pas complètement à côté du sujet ? Ça l'est, malheureusement, mais bon... Ce que je peux dire quand même, c'est qu'il y a aujourd'hui en philosophie morale, même du côté de ce qu'on appelle les penseurs analytiques, comme Martha Nussbaum, dont vous avez peut-être entendu parler, ou Sandra Logier, enfin toute l'école de l'éthique du Caire, ce qu'on peut appeler un tournant littéraire, c'est-à-dire un intérêt de plus en plus marqué pour la littérature en tant qu'outil, que ressource pour la philosophie morale. Mais bon, moi, je ne suis pas du tout impatient de prendre ce tournant. Je passe même d'ailleurs mon temps à essayer d'expliquer pourquoi il ne faut pas le prendre, pourquoi il ne faut pas aller de ce côté-là. J'ai l'impression que la littérature est prise un peu en otage par ces philosophes, c'est-à-dire qu'ils l'instrumentalisent pour défendre une certaine théorie, une théorie qui est anti-kantienne, une théorie qui s'oppose à la défense des droits, de l'impartialité en morale. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais me mettre de ce côté. J'imagine que la littérature est assez riche pour avoir des ressources pour défendre Kant aussi. Enfin, ça doit être possible. Pour défendre une philosophie des droits, pour défendre l'universalité et pas simplement cette philosophie qui repose simplement sur l'idée que ce qui compte, à chaque fois que vous avez un problème moral, c'est d'écouter la voix de votre cœur, c'est d'écouter la voix de vos émotions et surtout de ne pas vous laisser aller à des principes généraux et universels et surtout de ne pas respecter les droits des gens. Il est beaucoup plus important d'avoir de la compassion et de l'empathie que de respecter les droits. Bon, pour moi, ce n'est pas du tout un univers dans lequel je me sens à l'aise. C'est pourquoi d'ailleurs, j'entame, quand j'en ai l'occasion, quand on me donne l'occasion, toutes sortes de débats avec les défenseurs tout à fait respectables d'ailleurs et qui sont mes amis de l'éthique du Caire. D'ailleurs, je crois que ce sont mes amis, je ne suis pas sûr qu'ils aient le même sentiment à mon égard. Mais en tous les cas, voilà ce que je voulais dire. Je n'accorde pas à la littérature une place privilégiée dans ce sens-là. Elle ne nous indique pas spécialement quel genre de théorie morale on doit défendre. Et là, par exemple, dans le petit texte que j'ai préparé, il y a finalement très peu, et peut-être, enfin très peu, pas du tout d'allusion à la littérature, mais simplement il y a une allusion à la pensée ordinaire, à ce que les gens pensent en général, hein, et comment la philosophie utilise cette pensée ordinaire, essaye de la construire de façon systématique pour aboutir à des conclusions que je trouve déraisonnables en matière d'inégalité sociale. Bon, mon idée, c'est de justifier le principe qu'il n'y a absolument aucune justification morale aux inégalités économiques. Et bon, ça a l'air d'être une thèse un peu radicale, mais je pense que je peux avoir les moyens, enfin peut-être pas en 20 minutes, de la justifier. Ce qui m'importe, c'est que je voudrais la justifier contre les penseurs, les philosophes et les non-philosophes qui estiment qu'il y a au moins certaines inégalités parmi l'ensemble de celles qui existent, qui sont justes et morales, qui sont justifiées par le mérite, par exemple, ou par la contribution que peuvent avoir ces inégalités à l'enrichissement général de la société. Voilà les deux grands principes. Alors, si vous voulez, des penseurs démocrates qui pensent en général que toute inégalité d'accès aux droits élémentaires, disons un procès équitable, à exprimer ses opinions, à des libertés fondamentales comme celle de circuler, d'élire et de renvoyer ses gouvernants, ce genre d'inégalité est injuste. C'est-à-dire que vous ne puissiez pas avoir un procès. Mais ils ont tendance à considérer en même temps que certaines inégalités économiques ne sont pas moralement inacceptables si, par exemple, elles apportent des meilleures perspectives aux plus défavorisés ou si elles sont attachées à des fonctions et des positions ouvertes à tous, conformément à la juste égalité des chances. Bon, ça, vous connaissez bien ce genre d'argument. Mais d'autres penseurs démocrates rejettent même cette dernière conception de justification des inégalités, car elle ne tient pas assez compte, d'après eux, de la responsabilité individuelle. Bon, ils estiment aussi qu'il y a des inégalités économiques et sociales qui ne sont pas injustes, mais il distingue les inégalités qui résultent d'options personnelles, hein, de libre choix de chacun, et d'autres qui proviennent de la pure chance ou de la pure malchance. Ce qu'on appelle les inégalités qui proviennent de la chance ou de la malchance, c'est celles qui vous tombent dessus à la naissance, hein, le fait que vous soyez né dans tel ou tel pays, dans tel ou tel endroit, dans telle ou telle famille, que vous ayez tel ou tel handicap ou tel talent naturel, telle ou telle psychologie personnelle, finalement, ça ne dépend pas de vous. Il n'y a aucune raison que vous soyez sanctionné socialement par des choses qui ne dépendent pas de vous. Mais ils vont un peu plus loin et considèrent que si vous préférez travailler le moins possible, hein, si vous n'avez aucune intention d'arrêter de fumer, de boire des bières ou de manger goulûment, et si de plus vous êtes débrouillé pour ne pas vous être assuré alors que vous pouviez l'être, il n'est pas injuste que vous en subissiez les conséquences à tout point de vue. Il serait même immoral, il faut faire attention à ce genre d'argument, que les citoyens vertueux, modérés, raisonnables pâtissent de vos choix de vie imprudents et irresponsables et que vous soyez obligé de payer vous pour leurs bêtises à eux. Donc ça, l'idée, c'est qu'il n'y a rien d'immoral à sanctionner les gens qui, par leur attitude, risqueraient de vous causer des torts. Alors, donc, on a... Je considère que là, il y a une concession qui est faite à l'idée que les inégalités sont généralement injustes, et je rejette cette concession. Alors, il n'est pas très facile de repousser cet argument. Finalement, je vais essayer de le faire devant vous, de vous donner des arguments pour dire que ni l'idée que les inégalités qui sont au bénéfice des plus défavorisés, ni les inégalités qui résultent d'options personnelles qu'on aurait pu ne pas prendre, hein, qu'on avait la liberté de ne pas prendre, donnent un fondement moral aux inégalités économiques et sociales. Donc, ni les inégalités qui proviennent des choix individuels, ni celles qui sont prétendument à l'avantage des plus défavorisés, ne sont moralement indiscutables. Alors, en ce qui concerne les choix individuels, mon argument que je développerai un petit peu après, c'est est-ce qu'il est moralement permis de laisser mourir devant l'entrée de l'hôpital la victime d'un accident de la route qui n'a pas plus les moyens de payer les soins indispensables parce qu'il avait choisi de tout dépenser au loto avant, au lieu de s'assurer, par exemple. Alors, on a plutôt tendance à penser que dans ce genre de cas, nos idées de mérite et de responsabilité individuelle doivent céder devant celles de traitement. Excusez-moi, j'ai envahi votre territoire. De traitement égal des patients, de priorité à satisfaire leurs besoins présents, quels que soient leurs choix ou leurs activités passées. Donc, les inégalités qui profitent le plus... Alors, ça, c'est le premier argument. Donc, c'est est-ce que si quelqu'un a fait les mauvais choix, il se retrouve dans ce genre de situation, on va lui dire tu dois payer pour ses choix. Il n'est pas immoral de te laisser crever à l'entrée de l'hôpital. Alors, après, il y a les autres inégalités, celles qui profitent aux plus défavorisés, quand elles sont, est-ce qu'elles sont plus acceptables moralement parlant. Alors, l'idée que s'il y a certaines inégalités qui profitent à sous, en le sens où par un effet de ruissellement, le fait que la société entière s'enrichit, donc les plus pauvres en bénéficient aussi. Donc, il est pas mal qu'il y ait certaines inégalités, hein, ça motive les gens à travailler, etc. Vous connaissez ce discours qui s'est répandu à gauche aussi. Et donc, je trouve que l'implication qui est contestable, c'est que les plus pauvres devraient admettre leur état d'infériorité sociale et de dépendance économique parce que leur situation sera encore pire si les riches étaient moins riches et moins puissant. C'est un peu ça l'idée. Vous devriez être content de votre situation parce que si les riches n'avaient pas tellement d'argent, vous seriez encore plus pauvres. Donc acceptez cette situation. Donc vous voyez les deux arguments que j'essaye de développer pour montrer que ces inégalités que même à gauche aujourd'hui on accepte finalement ne le sont pas, qu'il n'y a pas vraiment de base morale à ces inégalités. En proposant ces arguments en faveur de l'idée qu'il n'y a aucun fondement moral aux inégalités économiques et sociales, je vais à l'encontre du puissant courant moralisateur qui s'est développé en philosophie dans le domaine de la justice sociale. Ce courant moralisateur a trouvé une expression politique particulièrement déstabilisante pour la gauche dans le programme du parti travailliste New Labour qui gouverna la Grande-Bretagne de 1997 à 2010. Dans ce programme, les travaillistes affichèrent publiquement leur souci de rompre avec une culture de l'assistance en exigeant une contrepartie des allocataires d'aide sociale sous forme d'une activité professionnelle immédiate, de quelque ordre qu'elle soit. Je ne sais pas ce que va faire notre nouveau gouvernement, mais je suppose qu'il ne reviendra pas à cette idée que les gens qui ont le RSA doivent au moins faire 7 heures de travail par semaine pour le mériter, et qu'il doit toujours y avoir des contreparties en termes de devoirs, aux droits qui leur sont accordés. Donc là, l'idée, c'était de revenir au vieux slogan « work, faire », c'est-à-dire qu'il faut remettre les pauvres au travail plutôt que welfare, qui consistait à garantir le bien-être de tous, même des feignants qui ne travaillent pas. Bon, c'est une opinion que je voudrais continuer de défendre. Non. Ils s'alignèrent ainsi sur le paternalisme des plus conservateurs, ce qui fut, à mon avis, une grave erreur politique. Enfin, ce n'est pas que mon avis seulement. Alors, donc, avant de développer juste un point particulier, parce que je n'ai pas trop le temps de faire le tour de sous cette question, je voudrais insister sur le fait que ce que je conteste, c'est l'idée qu'il y aurait une justification morale aux inégalités économiques. Il est possible qu'il y ait des explications sociologiques à l'inégalité, il y a des explications historiques à l'inégalité, il y a même peut-être des justifications économiques, quoiqu'elles me paraissent douteuses, aux inégalités économiques et sociales. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est que vous ne trouverez pas de fondement moral intelligible, si vous avez une théorie morale défendable, à l'idée que certaines inégalités économiques et sociales sont justes. En fait, dans le débat philosophique, il y a trois sortes de tentatives extrêmement élaborées de trouver des justifications théoriques systématiques à l'idée que certaines inégalités économiques sociales ne sont pas immorales. Et la première est libertarienne, la deuxième est libérale et sociale, elle est défendue en gros par John Rawls, et la troisième, libérale et individualiste, et c'est un philosophe un peu dissident de Rawls qui s'appelle Dworkin qui la défend. Alors, vous trouverez facilement des échos à ces débats. Bon, c'est des philosophes que j'apprécie plus que ceux qui ont été cités jusqu'à présent, parce que je les trouve plus systématiques, plus argumentés. Vous n'êtes pas obligé non plus de vous y intéresser. Je crois que nous avons suffisamment d'équivalents en France. J'aurais pu donner des noms aussi, mais je ne vais pas le faire maintenant. Donc, quelle est la justification libertarienne à l'idée que certaines inégalités économiques et sociales sont justes et ne sont pas immorales? Alors, selon un libertarien, les gains que nous obtenons en échange de la mise à la disposition d'autrui de notre corps et des produits de notre travail nous appartiennent entièrement et nous sommes pleinement, parce que nous sommes pleinement propriétaires de nous-mêmes. Et il serait injuste et immoral de nous priver de ces gains par la contrainte, même lorsqu'ils sont énormes et induisent des inégalités considérables, comme par exemple les gains des footballeurs, comme Zidane, des grands chanteurs d'opéra, etc., au nom d'un intérêt social qui peut paraître supérieur, comme celui qui consiste à essayer de diminuer le degré d'inégalité dans une certaine société. Pourquoi ? Parce que c'est un droit fondamental. Et même si la majorité vote pour telle ou telle mesure, dans une société démocratique qui a quand même des freins constitutionnels, ce qui veut dire que la majorité ne peut pas tout faire, elle ne peut pas porter atteinte à des droits fondamentaux. Or, si c'est un droit fondamental de pouvoir bénéficier des produits de son propre travail et des produits de la mise à la disposition de son corps pour autrui, toute infraction à ce principe serait une atteinte aux droits fondamentaux. Donc, même s'il y a des inégalités qui sont créées, eh bien, ces inégalités sont moins importantes que le prix que coûterait l'atteinte aux droits fondamentaux si on prenait, de façon coercitive, à ceux qui ont gagné tant d'argent une somme comme 75% au-dessus de 1 million de revenus. Donc, ça serait du vol. L'État, en fin de compte, interviendrait de façon tyrannique et en portant atteinte à des droits fondamentaux. Donc, ça, c'est la justification libertarienne de l'idée que certaines inégalités sont morales parce qu'elles sont simplement le produit du travail des gens, de leurs talents, etc. Il n'y a aucune raison de les en priver. La justification libérale et sociale est complètement différente. Elle part du principe, donc c'est-à-dire, elle part du principe que les désavantages économiques causés par des facteurs qui ne relèvent pas de la responsabilité personnelle des agents, mais des circonstances, n'ont pas de justification morale. Mais si des institutions permettent de mettre ces inégalités au service des plus défavorisés, ces institutions acquièrent une certaine valeur morale. Bon, alors, peut-être je peux prendre un exemple sinistre pour expliquer ça. Imaginez une situation dans laquelle la moitié de la population serait aveugle et l'autre moitié serait borgne. Alors, on pourrait, par souci d'égalité, se dire, puisqu'il n'y a aucun moyen de faire en sorte que les aveugles récupèrent au moins un œil, donc le mieux, pour qu'on soit parfaitement égaux, c'est d'enlever l'œil au borgne. Mais celui qui défend l'idée de l'égalité, contre l'égalitarisme niveleur, comme ils le disent, dirait plutôt qu'il vaut peut-être mieux mettre les borgnes au service des aveugles, si on peut dire. C'est-à-dire que des institutions permettaient à ceux qui n'ont qu'un œil d'aider les autres, dans ce cas-là, ce ne serait pas tellement immoral. Et du fait que, dans l'état présent, étant donné qu'on ne peut pas rendre les borgnes voyants, c'est peut-être la meilleure des choses qu'il y a à faire. Donc il n'y a rien d'immoral dans le fait d'accepter cette inégalité si elle est mise au service de ceux qui sont dans la plus mauvaise situation, c'est-à-dire en l'occurrence des aveugles. Alors, cette conception, elle laisse finalement aucune place à l'idée du mérite personnel et individuel. Vous voyez, simplement, ce qui rend l'inégalité acceptable, c'est son effet social total. Elle ne tient pas compte du mérite individuel. Et c'est de ce point de vue qu'elle a été fortement critiquée par ce qu'on peut appeler les libéraux individualistes. Ce qu'il dit, c'est que finalement, cette autre conception sociale ne tient absolument pas compte de l'importance que nous donnons à l'idée de mérite et à l'idée de talent et d'effort. Vous voyez, c'est-à-dire, l'idée, c'est que oui, certes, c'est très beau de considérer que finalement, la notion de mérite est une notion extrêmement vague, puisqu'après tout, même nos talents naturels, est-ce que nous les méritons? Nous sommes nés comme ça, c'est une chance. Et même le fait d'être paresseux ou d'être actif, ce n'est pas quelque chose qui dépend de nous. Moi, je suis assez paresseux, par exemple, mais ce n'est pas de ma faute. Et là, c'est une éducation, c'est l'environnement dans lequel je suis né, etc. Et donc dire que les gens qui sont très actifs, comme l'était notre ancien président, donc c'est quelque chose qui ne dépend pas finalement de lui. Ce n'est pas la peine de le récompenser pour ça, de me punir pour ma paresse. Donc là, l'idée, si vous voulez, c'est que ça, quand on défend ce genre d'argument, on va complètement à l'encontre de notre sentiment à nous tous que nous voulons être récompensé pour notre mérite. On n'a pas envie de dire tout le temps qu'on est entièrement déterminé par notre environnement, et si par hasard on réussit un examen, dire ah, c'est pas de notre faute, c'est, enfin on le dit en public, je remercie quand on gagne un tournoi comme à Roland-Garros, c'est toujours grâce au coach, à la famille, etc. Mais au fond de soi-même, on pense aussi qu'on a une certaine part dans le succès, et on n'a pas envie qu'elle soit complètement rejetée. Donc ce que dirait un philosophe comme Dworkin, c'est que cette conception qui n'est ni le mérite, ni les talents individuels, qui n'essaye pas de les respecter, c'est une théorie qui ne tient pas compte de notre désir à nous de voir notre identité s'exprimer dans nos talents, dans ce que nous faisons, dans nos réussites et dans nos échecs. En fait, personne n'aime entendre dire que rien de ce qu'il caractérise, rien de ce qu'il fait ne dépend de lui, de ses choix personnels, que tout ce qu'il caractérise, tout ce qu'il fait, le produit contingent de déterminismes sociaux de la chance. Parallèlement, la conception sociale de la justification des inégalités économiques rend irrationnelle toutes nos réactions émotionnelles d'admiration et d'indignation à l'égard des actions humaines ou des caractères des individus. C'est-à-dire, si personne n'est responsable de ses choix, quelle raison avez-vous d'admirer Zidane, par exemple, ou d'admirer un grand musicien? Finalement, il n'est pas responsable de ses choix, mais aussi de blâmer quelqu'un. C'est-à-dire, si vous avez le sentiment que quelqu'un a commis une action horrible, ignoble, le sentiment de colère ou d'indignation que vous avez à son égard sera jugé irrationnel, parce qu'après tout, cette personne n'était pas libre de faire ce qu'elle a fait, etc. Donc, si vous voulez, il y a deux arguments pour dire qu'il faut tenir compte du mérite. Et c'est le premier argument, c'est que nous-mêmes, nous avons envie, quand nous faisons une action qu'on trouve bonne, de la mettre à notre compte. Nous en sommes fiers, nous n'aimerions pas qu'on nous prive de cette récompense. Et d'autre part, nos réactions de colère, d'indignation à l'égard des actions mauvaises perdraient tout sens si on ne considérait pas que les personnes sont responsables individuelles de ce qu'elles ont fait. Alors maintenant, ce tableau, est-ce qu'on peut avoir un argument contre ça? Ça a l'air d'être assez plausible, après tout. C'est un peu le discours courant. Alors, si vous voulez, il y a deux objections qu'on peut faire. Une objection qu'on peut appeler épistémologique et une objection qu'on peut appeler normative. L'objection épistémologique, elle dit en gros que c'est une chose de se croire responsable de ses choix et de réagir émotionnellement aux actions des autres comme s'ils étaient libres de les accepter, mais c'est une autre chose d'être réellement auteur de ses actions, de son caractère et de ses choix. Le libéral individualisme affirme que personne n'aime entendre dire que nous ne sommes jamais libres et que nos réactions émotionnelles d'admiration et d'indignation des actions humaines et des caractères individuels sont absurdes, car nos choix et notre personnalité ne dépendent pas de nous. Mais qu'elles soient vraies ou fausses, ces remarques de l'individualisme ne répondent évidemment pas à la critique de ceux qui estiment que ces jugements et ces sentiments sont illusoires et devraient céder lucidement devant la reconnaissance de la force des déterminismes sociaux. C'est-à-dire la question de savoir si on doit accorder une certaine importance à ces illusions que nous avons sur nous-mêmes et les autres, si elles doivent être la base d'une politique, reste ouverte. Le deuxième argument revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'argument de l'abandon. Si les principes du libéral individualiste étaient strictement respectés, si c'était les seuls qui orientaient les jugements normatifs, ils devraient soutenir qu'il n'y a rien d'injuste dans le fait d'abandonner à leur sort des personnes qui se trouvent dans la détresse et le dénuement total à la suite de choix personnels défectueux. Supposons qu'un individu vivant dans un pays ultralibéral, où chacun est libre de ne pas s'assurer, fasse le choix de conduire en état d'ivresse, en refusant les conseils de ses amis alors qu'il n'a pas de couverture sociale. Ajoutons qu'il n'a pas le permis aussi. Bon, ça se voit. Supposons que ce citoyen se retrouve ensuite planté contre un arbre et gravement blessé. Pourquoi la société devrait-elle payer une somme considérable pour réparer les dégâts que cet individu s'est causé à lui-même alors qu'il aurait pu les éviter s'il avait fait preuve de cette prudence minimale qu'on peut raisonnablement attendre de tous, quelles que soient les circonstances? Alors, on peut rendre l'histoire encore plus déprimante. Hein. Bon, supposons qu'après avoir été plusieurs fois soigné à la suite d'un accident de circulation très grave qui l'a causé en état d'ivresse, ce même personne récidive encore dans les mêmes conditions. Est-ce qu'il ne serait pas légitime que l'hôpital lui ferme définitivement ses portes et le laisse mourir à l'extérieur ? Alors évidemment, aucun libéral raisonnable, aussi individualiste soit-il, ne va jusqu'à défendre l'idée qu'il serait parfaitement normal de le laisser agoniser devant les portes de l'hôpital en lui donnant des leçons de morale, bon, s'il peut encore les entendre, ou en l'invitant à rejoindre une association d'alcooliques anonymes dans une vie future, évidemment, et si ses convictions religieuses le permettent. En fait, tous les individualistes libéraux, aussi radicaux soient-ils, cherchent un moyen de contrer cette implication contre-intuitive de leur programme et de montrer que leur conception n'implique nullement l'abandon à leur sort de personnes dont la situation est devenue absolument dramatique à la suite de choix défectueux. Alors je crois donc que cet argument de l'abandon est un argument qu'ils n'ont pas réussi à surmonter, et c'est pourquoi je ne vais pas développer plus dans ce sens, mais c'est un argument qui, pour l'instant, me paraît assez décisif contre cette idée que, finalement, les inégalités qui sont le produit des choix personnels qui auraient pu être autres ne sont pas immorales. Donc finalement, étant donné qu'il n'y a que deux justifications solides de la moralité des injustices sociales, la justification libérale sociale et la justification libérale individualiste, et que les deux sont extrêmement fragiles, c'est pour ça que je me permets de conclure en disant qu'il n'y a pas, à l'heure actuelle, de justification morale à la moindre inégalité économique ou sociale.
Merci, merci beaucoup pour cet exploit qui consiste à opérer une critique fondamentale des théories de la justice, enfin de certaines théories de la justice. Et
en 20 minutes.
En 20 minutes, c'était très appréciable. Bon, espérons que du coup que le taxi de Sylvie Laurent ne sera pas borgne, sous et sans permis, par application contre-intuitive de ces théories. Il était intéressant également pour nous qui avons entendu, enfin pour ceux d'entre nous qui avons entendu Pierre Rosanvallon hier évoquer justement cette mise en débat des théories de la justice et de l'idéologie de l'égalité des chances, de retrouver cette question sous un angle proprement philosophique alors qu'on l'a abordée sous un angle plus sociologique. Alors les interventions étaient à la fois très différentes et en même temps passe en consonance. Comme il nous reste, malgré tous mes efforts égalitaristes, brutaux, uniquement 25 minutes, 30 minutes avec le nouveau gain gagné sur le taxi, je propose d'ouvrir la discussion donc à la fois à la salle, enfin, au public, à tous ceux qui sont ici, et peut-être entre vous, si vous le souhaitez. Voilà, la parole est offerte à qui veut la prendre. Pas plus de 20 minutes chacun, s'il vous plaît.
Oui. Oui, merci de vos exposés. J'ai une question sur l'exposé de Madame Laurent. Aux États-Unis, à la question du blanc, du pauvre blanc, on a ça aussi en France. Et tout récemment, notamment la Seine-Saint-Denis, il y a la question aussi des blancs, notamment des exposés, des communications via ce qu'on appelait les indigènes de la République. Juste avant les émeutes de novembre 2005 est apparu. Peu avant a été diffusé le vocabulaire des Français de souche, qui est devenu comme une évidence, bien que très critiquable. Et j'aimerais savoir quels peuvent être les liens entre justement l'expérience états-unienne et l'expérience française, quoi. Bien qu'il y ait évidemment des différences historiques, sociales, etc.
Oui, je vous remercie de cette question. Les différences sont considérables et en même temps, je ne peux aller que dans votre sens sur l'apparition d'une réflexion qui tente à ethniciser la pauvreté en France. Et il est vrai que l'on a entendu parler, que l'on continue à entendre parler, à ma grande surprise, des petits blancs en France, ce qui est un terme qui est très connoté de l'espace colonial et que l'on voit arriver. Et c'est d'ailleurs tellement intéressant que je dirige un ouvrage à la Découverte à paraître en 2013 sur la question blanche en France pour essayer de comprendre justement ce qui s'y passe. C'est très inquiétant. À chaque fois qu'on me demande est-ce qu'il y aurait un poor white trash en France, je réponds non, c'est impossible, parce que pour qu'il y ait poor white trash, il faut qu'il y ait la némésis du noir. Il faut qu'il y ait l'autre noir qui incarne cette espèce d'opposition raciale pour qu'il y ait l'idée que certains blancs ont une déchéance telle qu'ils sont en deçà des noirs. Et en réalité, en Grande-Bretagne, avec la population caribéenne, il y a à peu près le même phénomène qu'aux États-Unis. En France, j'ai longtemps pensé, un peu de l'école noirielle, que la conscience de classe française, Victor Hugo, la noblesse de l'ouvrier, la figure du travailleur, c'était une façon de nous prémunir de la haine vis-à-vis des ouvriers blancs et pauvres, ou en tout cas du fait que la question de la couleur de la peau soit pertinente. Traditionnellement, dans l'histoire de France, il y a une double dialectique, la dialectique républicaine qui veut que l'on refuse de reconnaître les identités, qu'elles soient de genre, d'origine ou de couleur de peau. On est tous des citoyens de la République, et donc y compris on ne peut pas faire de statistiques ethniques, on refuse de reconnaître ça. Et en même temps, une conscience de classe très forte en France, avec une histoire ouvrière importante, qui fait que grosso modo, on peut concevoir une lecture qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le front de gauche, entre les opprimés et les oppresseurs. On a vu ça dans les différents exemples littéraires que nous avons cités, et Georges Sand a été un très bel exemple. Et pourtant, en effet, vous avez parfaitement raison, à l'occasion des émeutes de 2005, d'une part, les indigènes de la République ont, eux n'ont pas parlé exactement comme ça. Eux, ils ont parlé, ils ont essayé de retourner le stigmate de la minorité visible en expliquant à quel point la citoyenneté s'ancrait aussi parmi les Français de couleur. Alors, j'ai appris une expression formidable, je vous la donne parce que je la trouve très très jolie. Vous avez parlé de l'expression français de souche. Il y a un sociologue qui vient d'opposer l'idée des Français de souche aux Français de branche. Et je trouve ça très joli. Français de souche, c'est très moche comme expression, mais dans son opposition avec Français de branche, je trouve ça assez intéressant. Comme s'il y avait une lecture très nativiste de l'identité française. Et en réalité, ce qui s'est passé en 2005, c'est que certains intellectuels, on va donner leur nom, à commencer par Alain Finkielkraut, ont commencé à parler du racisme anti-blanc. Hein, c'est devenu une obsession chez lui. Et donc, je ne sais pas d'où il sort ces références. D'ailleurs, moi, j'ai enseigné dans un lycée technique de l'Oise à Creil pendant 5 ans. Je suis née dans le 93. J'ai jamais entendu ça, le Gaulois. On dit les Français, il y a des discours, etc. Mais l'idée selon laquelle, dans les banlieues, on passe son temps à insulter les gens en leur disant « sale blanc, sale gaulois », je ne sais pas d'où il sort ça. Mais il y a cette idée, ce phénomène qu'on a vu aux États-Unis, avec le phénomène dans les années 70 qu'on a appelé les « white ethnics », qui veut que les Blancs, subitement, se vivent comme la minorité opprimée. Et qui est une espèce, dans un contexte de réduction de l'État-providence, de concurrence entre les minorités de couleur et les natifs, pour ceux qui sont les plus méritants de ce qu'il reste de la solidarité nationale. Et donc, les discours que l'on retrouve chez ces intellectuels, mais aussi d'abord au Front National et puis ensuite à l'UMP, et peut-être maintenant on parle de gauche populaire, je ne sais pas, c'est l'idée selon laquelle les prestations sociales devraient être réservées aux, j'ouvre les guillemets, donc comme les Américains font, je fais le petit signe, vrais Français. Ce qui est une euphémisation de l'idée qu'ils doivent être blancs. Donc, c'est très compliqué ce qui se passe, d'autant plus qu'il y a une espèce de lecture double de qui sont les petits blancs. L'expression petit blanc, littéralement, elle est très péjorative. C'est une expression de bourgeois parisien. On parle des petits blancs pour parler de ces racistes de banlieue qui, victimes de la désindustrialisation, en seraient venus à détester l'autre. Et dans le même temps, quand on parle des petits blancs, c'est aussi, dans la bouche de certains représentants politiques, une façon de justifier des politiques d'exclusion de l'autre, comme pour dire les vrais Français, ceux qui travaillent et qui, j'ouvre les guillemets, se lèvent tôt le matin, ceux-là sont dans une position de difficulté parce que qui l'islamisation, qui la perte des valeurs, qui, comme l'a écrit Guéant, l'insécurité culturelle, etc. Donc tout ça est très, très idéologique, mais on retrouve la polarité le petit blanc comme figure du gros beauf, pour le dire vite, raciste, et donc que l'on déteste, et donc qu'il faut à la fois réformer, il faut l'envoyer à l'école, et en même temps il faut lui expliquer que c'est pas bien de détester les immigrés, et en même temps l'autre polarité qui est d'inventer ce personnage du petit blanc qui serait le vrai français, qu'il faudrait défendre contre des hordes d'immigrés qui viendraient le menacer. Dans les deux cas, on est dans l'idéologie la plus complète. Même si les sciences sociales, une fois de plus, certains géographes, certains sociologues tentent à donner, comme aux États-Unis, une véracité empirique à ce qui est en réalité un fantasme de représentation sociale. Voilà, je pense que j'ai répondu à votre question.
C'était une question pour M. Ogéan concernant le. Enfin, je me demandais si le contre-argument contre le libéral individualiste qui consisterait à dire que la responsabilité et le mérite, oui, c'est quelque chose qu'on apprécie, mais qui, au fond, ben, c'est douteux épistémologiquement, ne pourrait pas s'appliquer aussi à l'argument qui fragilise précisément la position, enfin, votre dernier argument. Oui, c'est très bien que ça nous choque de laisser mourir quelqu'un face à l'hôpital, on n'apprécie pas, mais épistémologiquement, c'est douteux de, en quoi ça consiste, en quoi c'est un tort.
Oui, vous avez raison. En fait, certains diront que finalement, il n'y a rien d'injuste dans le fait de laisser mourir quelqu'un devant l'hôpital s'il n'avait pas pris les précautions, mais que c'est immoral. Donc, il y a eu des tentatives. Hein. Je me suis senti extrêmement gêné, je dois dire, de ramasser. Au fond, je n'ai pas fait mon job parce que de développer ces arguments. Et en particulier, il y a en effet l'objection, la contre-objection que vous venez faire qui existe. En général, ce qu'on essaie de répondre à cet argument, on invoque le pluralisme des valeurs. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut distinguer ce qui est injuste et ce qui est immoral, et qu'il n'y a rien d'injuste dans le fait donc, de laisser quelqu'un, finalement, même si ça nous paraît, comme vous le dites, cruel, etc., bon, c'est une illusion, enfin, c'est juste, d'après les critères de cette théorie. C'est juste, mais c'est immoral. Et donc, il voit un conflit entre la justice et la moralité à cet endroit. Oui, vas-y.
Allez-y, mais pas trop. Pardon.
Mais dans ce cas-là, on ne pourrait pas répondre que ça relève donc du terrain de la morale, de la sphère privée de l'individu, et non pas à l'État d'imposer ce qui est, d'agir en prenant des critères moraux qui pourraient ressortir d'une conception omnicompréhensive du bien. D'accord. Une objection un peu à la Narvaison, à la libertarienne.
D'accord, oui. Mais alors à ce moment-là, donc, c'est pour ça que je disais que je n'avais pas fait mon travail dans le sens où les arguments libertariens, par exemple, je ne les ai pas démontés, hein, ce qui repose sur l'idée de la propriété de soi-même, etc. Et il faut le faire aussi. Ouais. Merci.
Moi, c'est une question pour Mme Laurent également. Et c'est sur votre double positionnement disciplinaire, en fait, par rapport à votre approche de la race comme. Comme figure mythologique, peut-être aussi comme dispositif. Je trouve que quand on lit certains écrits de littérature, notamment vous avez parlé des post-colonial studies, peut-être parfois aussi dans certains courants philosophiques, il y a des lectures très très stimulantes intellectuellement, mais qui présentent un peu la race comme un dispositif biopolitique bien huilé, à partir desquels on peut lire le réel ou des pratiques politiques. Encore une fois, c'est très stimulant pour l'historien que je suis. Et à la fois, quand on regarde du point de vue de l'histoire, de la poussière du carton d'archives, donc cette historienne, ben ça accroche. C'est beaucoup plus hétérogène que ça. Il y a à la fois des pratiques d'anthropologie physique. Moi, je travaille plutôt en études coloniales. Il y a des pratiques juridiques, il y a des pratiques des jeux d'acteurs. Et finalement, ce n'est pas aussi maîtrisé, aussi clair, aussi limpide que ça. Ça accroche. Ce qui ne veut pas dire que les dégâts sont moins grands ou moins forts, mais c'est peut-être un peu moins maîtrisé par le haut comme une espèce de machinerie qu'on pourrait découler de manière un peu mécanique sur des grandes périodes historiques. Et je voulais, alors c'est une question un peu sur votre pratique, votre parcours intellectuel, est-ce que, vu que vous êtes historienne, vous êtes devenue littératrice, est-ce que vous avez éprouvé dans ces positions disciplinaires ces différences-là en fait ? C'est peut-être un peu, je ne sais pas si c'est à propos ou compliqué comme question. Mais.
Je vais essayer de répondre, si j'y parviens pas, on va repréciser votre question. C'est très difficile de faire une approche multidisciplinaire ou transdisciplinaire, en particulier en France, puisqu'on veut toujours que vous apparteniez à une discipline, que vous disiez qui sont vos maîtres. Et donc, je faisais mention tout à l'heure du fait que je m'étais fait étriller le jour de ma soutenance de thèse. Ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment par le seul historien du jury. Il n'y avait que des spécialistes de littérature, et puis il y avait un historien qui était là, et qui m'a expliqué qu'en tant qu'agrégé d'histoire, je n'avais pas, en tant qu'historienne, je n'avais pas considéré que la littérature était une source historique, et que si je voulais parler de la pauvreté dans les années 30 dans le sud des États-Unis, il fallait que j'aille aux archives du WPA, des archives gouvernementales, que c'était là que j'y trouverais la vérité de ce qu'était la pauvreté. Ce à quoi je lui ai répondu que et Zora Neale Hurston et Ralph Ellison avaient été les envoyés du gouvernement Roosevelt dans le Sud, qu'ils avaient non seulement épluché toutes ces archives, mais qu'en plus c'était des écrivains remarquables et qu'ils avaient transcendé ces visions très bureaucratiques et procédurières dans leur œuvre. Donc ça, c'est toujours compliqué. Pour ce qui est de la vision des post-colonial studies et de ce qu'on en dit en France, il y a très peu d'influence des post-coloniales sur les études d'histoire en France. Peut-être un petit peu, je sais que le département d'histoire coloniale de Sciences Po commence à s'y ouvrir un petit peu, mais ça reste en France victime d'une très très mauvaise réputation, parce qu'à l'origine il s'agit, comme pour ce qui est issu de la French Theory, d'études littéraires, que les Américains ont un petit peu appliquées à tout. Et pour faire très vite, dont ils ont fait une logique de la domination un petit peu trop vite plaquée sur les choses. Je vous dirais qu'il y a peut-être une bonne approche de cette lecture de la race et du racisme dans la littérature et une mauvaise. Par exemple, il me semble que « Culture et impérialisme » d'Edward Said est indépassable, et que l'on ne peut plus lire Jane Austen et la littérature britannique du 19e sans avoir ceci comme arrière-plan. Donc ça, c'est un point intéressant. Pour le reste, moi, je ne vois pas de logique de domination et d'oppression partout. Il y a d'ailleurs un courant aux États-Unis qui s'appelle les Whiteness Studies, où théoriquement, mon travail est censé trouver sa place, mais qui me gêne beaucoup parce que c'est l'idée selon laquelle la race blanche est une pure construction sociale et qu'au bout du bout, il faudrait abolir la race, puisque l'identité blanche est un privilège et que par conséquent, tout blanc doit être coupable du privilège et de l'oppression qu'il exerce sur les peuples de couleur à son insu. Donc on aboutit à des choses vraiment, vraiment complètement insensées et complètement absurdes. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est de voir la façon dont le discours sur la race a été fondamental dans la création de l'américanité. Et je reviens au texte de Toni Morrison qui explique que, et c'est pour ça que je tenais à dire que les premiers Noirs sont arrivés aux États-Unis avant les premiers pèlerins puritains. Toni Morrison explique qu'elle s'est toujours sentie très américaine dans l'Ohio où elle a grandi, et que quand les Irlandais sont arrivés, les Irlandais subissaient la plus grande des discriminations. D'ailleurs, les premiers mots qu'on utilisait aux États-Unis pour parler des Irlandais, c'était Guinéen. Comme des Noirs de Guinée. Ils étaient considérés un peu comme des basanés, comme des espèces de gens bizarres, les Irlandais. Donc la deuxième vague, hein, les catholiques qui ont suivi la grande famine. Et donc elle était très très fière d'être américaine. Et Toni Morrison dit, et pourtant leur premier acte d'américain, la première chose qu'ils ont faite, ou plus exactement qu'ils ont dite, qui les a rendus instantanément américains, alors même qu'ils étaient discriminés et qu'ils étaient regardés de haut, c'est lorsqu'ils m'ont regardé moi et qu'ils ont dit « nigger ». Et le jour où l'Irlandais dit au noir « tu es un nègre », il devient américain. Et donc, ce qui est intéressant pour moi dans cette lecture-là, c'est qu'à partir du moment où l'identité discursive, l'identité nationale, faute de mieux, se fait par l'explicitation d'un autre, qui ne le sera jamais, alors quand bien même il serait sur le territoire depuis deux siècles et que vous venez d'arriver, ça c'est quelque chose de vraiment intéressant et que la littérature nous dit bien plus que l'histoire, bien que l'histoire aujourd'hui, je vous renvoie au livre de Neil Irving Painter sur History of Whiteness, elle montre comment la littérature a complètement façonné les imaginaires. Et que c'est plus la littérature qui façonne les imaginaires, qui ensuite façonne les lectures sociales, la pensée eugéniste et les historiens, plutôt que les historiens qui ensuite, mais ça a été la même chose en France, comme le montrait Louis Chevalier dans Classe laborieuse, classe dangereuse. C'est d'abord les écrivains qui disent la réalité sociale, et puis ensuite les gens qui font des sciences sociales qui s'en inspirent. Donc oui, je suis parfaitement d'accord sur la fluidité des catégories, et j'espère que l'exemple des Irlandais voilà, répond à cette idée que la race est une construction très très plastique.
Moi, j'avais deux questions que je vais essayer de formuler correctement. La première, c'était pour vous, Madame Laurent. Vous avez parlé de construction identitaire antagoniste dans l'ethnicisation de la pauvreté. Si j'ai bien compris ce que vous disiez, c'est que le poor white trash se construit dans l'opposition à la figure repoussoire du noir qui est la place la plus basse. Donc je voulais savoir par rapport à ça, comment est-ce que vous voyez l'utilisation du terme, si je ne me trompe pas, c'est chavs, dans les émeutes des classes populaires en Grande-Bretagne l'été dernier, qui a, sans s'appuyer sur une identité de race, produit une espèce d'auto-exclusion par rapport à une identité complètement mythique des racailles. Enfin, c'est le terme qui a été utilisé en français pour le traduire, mais je crois que ce n'est pas complètement approprié. Mais
non, le chav, c'est un excellent exemple que vous donnez, j'y faisais allusion tout à l'heure. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous avez eu ce matin Nicolas Duvoux qui était là, que je connais, qui est rédacteur en chef de La Vie des Idées, et j'ai écrit pour La Vie des Idées, il est librement accessible en ligne, un article qui s'appelle « Contrefaçon d'anglais, chavs ». Pour expliquer quel est ce phénomène. Donc, mais les émeutes sont très importantes, une fois encore, c'est la même chose que pour la France. Chav, c'est un mot qui est utilisé depuis très longtemps en Grande-Bretagne. Donc la Grande-Bretagne, qui est, comme j'ai essayé de le montrer dans ma communication, un des pays où la confusion entre la race et la classe a toujours été très très forte. C'est-à-dire où, entre aristocrates et gens du peuple, on ne s'est jamais mélangé, on n'a jamais considéré qu'il y avait le moindre problème. C'est vraiment l'inégalité sociale est institutionnalisée, elle est gravée vraiment dans la pratique sociale quotidienne, et le droit du sang est très très fort. On appelle chavs, alors pour les autres qui ne les connaîtraient pas, ces jeunes blancs des quartiers populaires qui, dans une espèce de bouffonnerie un peu clownesque, portent leur stigmate social à une espèce de point d'incandescence qui serait presque le kitsch. Et donc, comme pour le white trash aux États-Unis, et Eminem est une bonne image pour ceux qui connaissent un petit peu le hip-hop, les chavs ont été complètement culturalisés en Grande-Bretagne dans la bonne société, où le pire du pire, c'est d'être chav, c'est-à-dire un jeune blanc au chômage, sous-qualifié, mais enfin qui n'a même pas été au collège, qui parle très mal l'anglais, qui est habillé en survette du matin au soir, alors que bien sûr il ne fait pas de sport, qui a une petite amie de 13 ans qui est enceinte, qui vit des maigres assurances sociales qu'il peut trouver, et qui traîne toute la journée dans une forme de semi-délinquance, mais attention, qui traîne avec des gens de couleur, qui traîne avec les Caribéens, avec les Indiens, et qui aurait y compris dans son parler, parce que le rôle de la jactance dans la littérature est très importante, quelque chose comme un abâtardissement. Et il y a un grand historien britannique qui, au moment des émeutes de 2005, a dit « Qu'est-ce que c'est que ces chavs ? Le pays fout le camp. Nous avons des hordes de jeunes blancs qui, grosso modo, se négrifient. Nous avons des hordes de jeunes chavs qui nous menacent par leur alcoolisme, leur dépendance au système de santé, leur pathologie sociale, qui, au cœur de la société, filent du côté des gens de couleur et pourrissent la société de l'intérieur. » Donc c'est vraiment exactement, on est complètement dans l'idée du péril de l'intérieur et de ces jeunes abâtardis qui seraient presque un peu métis. Est-ce que j'ai répondu à votre question ?
Non, pas tout à fait, parce que ce que je voulais dire, en fait, c'est est-ce qu'il n'y a pas justement une lacune dans la construction de l'identité de ces gens-là, enfin de ces classes-là ou de ces croisements entre classes et races ?
Ne me dites pas ces gens-là, c'est moche ces gens-là.
Désolé. Mais dans le fait qu'il n'y a pas eu une réappropriation de cette identité-là, comme on a pu avoir en France avec la marche des beurs, sur une identité à la fois de race et de classe, parce qu'il y avait un rejet de ce terme-là par les gens que c'était censé désigner. Et dans tous les procès qu'il y a eu de jeunes émeutiers, il y avait à chaque fois, enfin, c'était le terme chav qui était utilisé comme figure repoussoire.
Oui.
Et c'était les mêmes personnes qui étaient potentiellement désignées par ce terme et qui refusaient de...
C'est tout le point de la critique actuelle du multiculturalisme. C'est-à-dire que ça paraît logique que des minorités immigrées ou des minorités de couleur, voire des minorités de genre, revendiquent un droit à respect, à la reconnaissance sociale et aux droits. Mais un jeune Britannique cockney blanc, de quel droit va-t-il se prévaloir, puisque le prémisse, c'est que la blancheur de sa peau est un privilège inné. C'est-à-dire, ce que vous êtes en train de me dire, c'est pourquoi est-ce qu'il ne se constitue pas en collectif des pauvres blancs opprimés qui sont victimes d'une lecture raciale ? Est-ce que je comprends bien votre idée ? C'est parce qu'on ne peut pas comparer le statut de gens dont on pense qu'ils sont naturellement privilégiés avec le statut des Maghrébins en France, par exemple, qui eux, à la faveur aussi d'un parti socialiste qui avait tout intérêt à faire en sorte que tout ça existe, a pu faire en sorte que les droits de gens opprimés soient reconnus. Je crains de ne pas répondre, mais comme je ne suis pas certaine de comprendre votre question, je ne peux pas faire plus.
Non, c'est très bien. Je sais pas si...
Juste une petite remarque au passage pour revenir à la question précédente de historien et littéraire. D'abord, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès quand même dans la discussion depuis votre thèse, peut-être. Discussion entre historien et littéraire. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, d'accord. Mais bon, il faudrait plus de temps pour continuer dans cette direction. À propos de l'exemple que vous donniez, il y a des textes littéraires de Ralph Ellison. Il y a aussi parfois des mécompréhensions sur le statut de l'ironie dans les textes. Et ça, c'est vraiment une question centrale, y compris dans les pratiques sociales que vous évoquez, culturelles et sociales que vous évoquez, c'est cet usage du renversement ironique de la transgression.
Donc ma question est un peu générale, donc au sens où elle s'adresse à tout le monde, mais elle va partir de remarques et des remarques liminaires de Ruven sur la question du rapport à la littérature. Donc il y a, vous l'avez remarqué, un débat interne en philosophie qui concerne assez peu la littérature, qui est en fait qui a le droit de mobiliser la littérature pour faire dire à la philosophie ce qu'on a envie qu'elle dise. Et de fait, il y a des clivages très très importants, et en France et aux États-Unis aussi, la philosophie qui remobilise la littérature de manière très intense le fait vraiment dans une opération et dans une orientation très spécifique à laquelle on n'est pas forcément susceptible ou on n'est pas forcé d'adhérer. En tous les cas, Ruven n'y adhère pas, mais je ne crois pas non plus que ça soit un argument qui porte contre la littérature elle-même, et je pense que le lien que tu fais et la nécessité que tu invoques de s'appuyer sur l'analyse du langage ordinaire, par exemple, va dans un sens qui est magnifiquement pris en charge par la littérature, que ce soit à travers les dialogues et tout le travail qu'elle peut faire sur le texte. Donc ceci étant dit, je pose du coup la question beaucoup plus générale qui est: quelle est l'efficacité finalement des textes, que ce soit un texte de philosophie, que ce soit un texte d'histoire, que ce soit un texte de littérature. J'ai bien entendu Ruven, que tu disais que l'argument de nos adversaires, à vrai dire, est défectueux, mais il perdure. Il perdure. Socialement, il est toujours dominant, il est toujours présent, il est toujours contraignant. On réfléchit, on continue à réfléchir socialement et de manière ordinaire dans les catégories de l'égalité des chances, la plus insidieuse et la plus redoutable. On continue de blâmer la victime, pour reprendre la formule célèbre du livre américain sur ce thème. Et l'idée que je me posais, c'est même par rapport à cette question, la prise en charge de la parole du migrant, par exemple, ou quand Jean-Paul disait le texte, réaliser l'égalité dans les textes, il faut la réaliser dans la société, c'est une opération silencieuse, mais rien ne dit qu'elle soit sans effet. Et donc, c'est là que c'est, alors je me rappelle avoir lu Sartre sur cette question, analysant Dos Passos et disant que la faculté de la littérature par Dos Passos de décrire une situation a pour effet d'impliquer le lecteur dans un acte créatif d'une certaine manière qui fait qu'il se retrouve lui-même acteur, non seulement de sa lecture, mais en même temps, du coup, acteur sur un mode plus général au niveau de la société, au sens où la littérature peut modifier des représentations, au sens où un argument bien senti peut modifier des représentations ensuite, et donc induire un mode d'action. Je sais que tu as écrit sur la faiblesse de la volonté, un livre très très important. Donc est-ce qu'on est seulement dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'on voit très très bien où est le mal, on le désapprouve et on continue de le faire? Qu'est-ce qui est en œuvre et qu'est-ce qui fait qu'un texte d'un seul coup va devenir socialement, politiquement actif et acteur? Voilà, pour vous.
Je vois juste
En fait, il y a. Bon, évidemment, c'est une question trop vaste pour qu'on puisse y répondre comme ça. Là. Mais je pourrais juste parler de ce que j'ai écrit sur la pornographie. Je ne sais pas si vous le rangez dans la catégorie des... Enfin, au moins, disons que c'est des œuvres de l'esprit, même si leur statut littéraire ou artistique est toujours contesté. Mais en tous les cas, la question de l'influence de certaines œuvres sur... elle va pas toujours dans le sens du bien, par exemple. On peut considérer que la pornographie, par écrit ou image, quoi, des représentations sexuelles explicites, elle peut détériorer le monde dans lequel nous vivons. Hein. C'est, disons, un argument standard. Et c'est vrai que j'ai plutôt eu tendance à penser qu'il y avait deux arguments contre cette idée. D'une part, que les preuves empiriques de l'influence, pour l'instant, n'ont pas été apportées. Ça nécessiterait quand même une... Vous voulez répondre peut-être à la question de... Non. Donc il y aurait donc deux arguments que je pourrais, disons, donc pas pour répondre, mais pour continuer à réfléchir. D'une part, là, la question que tu poses est une question causale, une question presque empirique causale sur la littérature, d'ailleurs, qui vous posera une question aussi à vous, au fond, c'est de savoir est-ce que la littérature, c'est elle qui modèle d'une certaine façon ou est-elle modelée par les pensées? Donc on aurait toutes sortes de cercles causaux extrêmement difficiles, mais d'ailleurs, comme toute la causalité sociologique, à démêler. En ce qui concerne la recherche sur la pornographie, je pense qu'on n'a aucun argument empirique, sociologique ou psychologique décisif pour dire qu'elle a une influence, en dépit de tout ce qu'on lit dans les journaux, sur les comportements des gens. Je pourrais développer ça. Et l'autre chose, c'est le fait que la participation à un univers fictif comme celui de la pornographie ou de la violence extrême, c'est plus intéressant, n'a rien à voir, pour certains philosophes, pour d'autres ça a à voir, avec notre conscience de la réalité. C'est pas, la littérature, c'est un domaine dans lequel on peut adorer les ordures. Mais ça ne veut pas dire qu'on les aimera dans la vie de tous les jours. Si vous voulez, c'est pareil pour l'ultra-violence. C'est pas parce que les ados aiment bien des films comme Scream qui vont massacrer tout le monde. Et utiliser certains faits divers pour montrer qu'il y a une influence de l'un à l'autre, je pense que c'est infondé. Donc voilà les deux arguments. Et nous avons des difficultés à analyser causalement le rapport entre, si on les considère comme des variables indépendantes, les attitudes, les jugements, les comportements, et d'autre part, comme variables indépendantes, les écrits et les images, et d'autre part, notre capacité à faire une distinction entre les univers fictifs et les univers réels, d'après moi, il faut vraiment être dans une très mauvaise situation pour être incapable de respecter cette différence. Même des apologies de pédophilie, pour moi, dans des œuvres fictives, les gens sont parfaitement capables de voir des scènes sadiques dans lesquelles des adultes sodomisent des enfants sans qu'ils se disent que c'est ça qu'il faut faire, etc. Donc je pense que c'est assez paternaliste de considérer que les gens ne sont pas capables de faire la différence entre la fiction et le réel, comme on le dit à propos de la pornographie, et d'autre part, nous n'avons pas de preuves empiriques convaincantes des influences sociologiques réelles.
Voilà. Il y a aussi des fictions qui visent à dire quelque chose du réel. On a parlé de Flaubert tout à l'heure. Flaubert, quand il écrit tel ou tel ouvrage, il se documente extraordinairement pour rédiger. Donc il n'a pas simplement l'idée, par exemple, comme dans Scream, de construire un monde parallèle dont on sait qu'il est inexistant, qu'il a une fonction bien particulière de divertissement ou d'autre. Là, on a une vision qui est aussi une vision qui consiste à dire quelque chose de vrai sur la psychologie d'une époque, sur la psychologie de certains types,
bien
etc.
Bien sûr, que la littérature, enfin comme Nelson Goodman le disait, les moyens de connaître sont divers. Il n'y a pas que la science qui nous permet de connaître le monde. Que la littérature soit un moyen de connaissance, ou même la musique du monde, ça on peut l'accepter. Là, on parlait non pas de la connaissance du monde, mais de l'influence de cette connaissance sur nos actions, nos attitudes, etc. Par exemple, est-ce que la pornographie rend les gens sexistes, contribue à l'image dégradée de la femme, etc. C'est des questions concrètes auxquelles j'étais confronté dans différents débats. Et là, je pense qu'il faut simplement s'en remettre à ce que nous dit la sociologie et la psychologie, et pas aux faits divers et à ce que disent les journalistes. Voilà.
On n'aura jamais de preuves empiriques la littérature a un effet ou n'a pas d'effet, et ce serait même, je pense, absurde d'en chercher des preuves empiriques. On ne peut pas prévoir la lecture d'un texte, on ne programme pas la lecture d'un texte, et je pense qu'un texte est approprié par ses lecteurs d'une manière qui est très largement imprévisible. Donc, s'il y a effet d'un texte dans l'histoire, d'une part, on ne peut le savoir qu'après coup, peut-être très longtemps après, et sous l'effet d'une illusion rétrospective. Donc, je ne pense pas qu'on puisse jamais juger avec certitude de l'effet d'un texte. Mais la question, pour moi, elle résonne avec ce qu'on a entendu ce matin, et je reviens au mot de Didier Bezas. La littérature, elle nous permet de prospecter nos vies, c'est-à-dire de regarder en avant. Et elle nous permet de faire une expérience ensemble, et dans l'existence tout simplement de cette expérience-là, il y a la fabrication concrète et immédiate d'un commun. Et sans qu'on puisse déterminer le contenu de cet effet, il y a cet effet de fabriquer une expérience commune, dont la nature même fait société. Et je pense que ça, déjà, c'est important.
Oui, je rebondirais sur ce que tu viens de dire, en ajoutant qu'effectivement, par rapport au texte dont j'ai parlé, il y a une évidente fonction réparatrice par rapport à un déficit de droit, un déficit de représentation. Mais qu'au fond, on est dans la même situation que celle qui a été décrite ce matin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer les effets, par exemple, de l'information sur la pauvreté. Et qu'il y a cependant ce qu'on pourrait peut-être décrire à travers ces textes ou la multiplication de ces textes comme un effet de récurrence. Et un effet de récurrence qui va permettre de construire une forme de représentation. Ce qui m'a frappé, effectivement, en lisant ces textes, c'est l'absence, et je dirais une sorte de retrait par rapport à toute forme d'argumentation explicite. C'est-à-dire qu'on pose véritablement le discours, les propos tels quels, hein, les propos rapportés, enfin supposément à l'identique, dans une sorte de fantasme du réalisme d'ailleurs, dont on pourrait discuter aussi, mais ça c'est un autre débat, et d'absence absolue d'argumentation, comme si au fond c'était, on laissait le lecteur ou l'histoire des lectures poser derrière à la fois une information et un travail de retour sur la construction d'un monde commun, à partir de ce déficit absolu de monde commun.
Je pourrais me permettre de dire ce qui me frappe, si vous voulez, dans les différentes réflexions philosophiques sur l'importance de la littérature en philosophie morale, c'est ce rôle, Patrick l'a souligné aussi, assez spécifique de destituer la raison de ses pouvoirs pour la donner à autre chose, les sentiments. Il y a eu le livre d'Appia, Le Code de l'honneur, montre aussi ce qu'on consiste à dire que l'esclavage n'a pas été aboli parce qu'il y a eu des arguments de Montesquieu ou d'autres, mais simplement parce qu'à un certain moment, la classe ouvrière anglaise s'est sentie déshonorée, a eu honte du fait que d'autres personnes qui travaillaient étaient traitées ainsi. Je ne dis pas que ça n'a pas d'importance, mais en général, il faut que vous preniez conscience, enfin ça c'est un problème pour nous, philosophes, qu'on est toujours, on a un peu de réticence à accepter que la raison n'aurait pas ce pouvoir dans le changement, plus par exemple que les exemples de la littérature, etc. En tous les cas, c'est le cas pour moi, mais pour d'autres, au contraire, c'est une bataille contre l'importance de la rationalité, dans le, si vous voulez, notre amélioration morale.
Mais la littérature contemporaine la plus rigoureuse est aussi une littérature qui revendique la raison, et souvent contre le sentiment.
Est-ce que vous pourriez donner un exemple?
Parce que
j'en cherche toujours.
Jean Rollin. Emmanuel Carrère aussi, oui, tout à fait.
Oui, quand vous voyez, oui.
Oui. Bon, il a une façon de prospecter, en effet, comme le disait Patrick, comme sur la réalité en faisant une enquête, et on est très très troublé. Enfin, moi je demande au littéraire parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps, on est très très troublé, on est très très mal à l'aise parce qu'on ne sait pas ce qui relève de la fiction et de la réalité, et on est vraiment physiquement mal. Je veux dire, lire l'adversaire ou d'autres vies de la mienne, ça vous met dans des situations très dures parce que vous avez l'impression, et ça c'est à côté un petit peu le côté aussi un petit peu subversif de la littérature, que vous lisez la vie des autres.
Oui, alors on ne sait pas, on ne sait jamais si on est dans la fiction ou dans la réalité, mais on sait qu'on est dans la raison. Mm-hmm. On sait qu'on est dans la réflexion, réflexion politique ou réflexion morale, et on n'est pas dans le sentiment.
C'est une ruse.
Ce sur quoi j'insiste devant les philosophes, c'est sur le fait que la littérature pense.
Oui, non, mais
elle ne fait pas dans le sentiment.
Ce qui est intéressant, oui, c'est que vous, du côté de la littérature, vous mettiez en avant la raison, alors que les philosophes passent leur temps à essayer de dire grâce à la littérature, on pourra se débarrasser de la raison.
Mais les philosophes certains philosophes nous ont beaucoup aidés en disant que les émotions étaient une forme de cognition. Et là, la question est réglée pour nous, et c'est un boulevard qui s'offre.
Cela dit, moi je pense qu'il y a un effort de retour du côté du rationnel à travers cette pratique qu'on trouve dans les romans d'Emmanuel Carrère. D'ailleurs, il y a un terme très spécifique qui a été forgé pour décrire ce type de dispositif narratif, qui est au fond le même que celui que j'ai évoqué tout à l'heure dans cette BD. C'est ce qu'on appelle l'alterfiction. Au fond, cette médiation du tiers qui va restaurer contre ce qu'on pourrait appeler la puissance brute de l'émotion. Alors, cet appel à l'émotion me gêne aussi, par exemple, lorsque Martha Nussbaum tente à faire de la littérature une sorte de réservoir d'exemplats d'ordre moral, et à dire c'est une forme de défense perverse des humanities que de dire que nous avons là au fond quelque chose qu'il faudrait restaurer, que c'est important, que c'est-à-dire je suis dans en fait
finalement nous sommes bien d'accord.
Chez Carrère c'est très retors, hein. Chez Carrère c'est très retors. On pourra en discuter, mais c'est très retors. Ah.
Oui.
Raphaël,
oui, je voulais parler des bandes dessinées d'un nouveau courant qui est... Non, mais allez-y.
Non, moi, j'ai une question qui s'adresse particulièrement à vous deux, mais éventuellement aussi à Ruven Augien. En fait, j'ai l'impression que depuis ce matin, on n'arrête pas d'opposer de bonnes et de mauvaises représentations des inégalités, et qu'il y a une espèce de confusion sur les termes quand on parle de bon et de mauvais. Parce que ce bon et ce mauvais, on peut l'entendre au sens de mimétique ou non mimétique, c'est-à-dire opposer des représentations qui soient vraiment adéquates à la réalité des choses et des représentations qui soient inadéquates, donc des représentations notamment mythologisantes ou naturalisantes de la pauvreté. Il y a des représentations bonnes ou mauvaises du point de vue aussi du juste et de l'injuste. Et là, dans ce cadre-là, on va parler de représentations plus ou moins éthiques ou plus ou moins politiques. Et dans ce cadre, il me semble qu'on peut entendre effectivement la fonction réparatrice de la littérature. Et puis, il y a les représentations bonnes ou mauvaises du point de vue effectivement de l'efficacité, de l'efficacité ou de l'inefficacité. Et de ce point de vue-là, peut-être que la bande dessinée est plus efficace que les romans d'Emmanuel Carrère, encore que les romans d'Emmanuel Carrère, maintenant, on peut les acheter au relais H. Et il a même dû se justifier du fait qu'il gagnait peut-être plus d'un million d'euros, donc on peut supposer qu'ils sont lus. Mais ce que je veux dire, c'est que de ce point de vue-là, il y a effectivement un juste et un juste en termes d'efficacité politique. Et il me semble que quand même, là où il y a peut-être, je dirais pas une limite de la théorie de Rancière, mais c'est que justement, toute la théorie de Rancière dont a parlé Jean-Paul, mais qui aussi était sous-jacente, je pense, dans ton discours, Christine, c'est quelque chose qui présuppose quand même une efficacité, effectivement, de la révolution esthétique, une efficacité dont on peut questionner quand même l'efficacité réelle, là, pour le coup. C'est-à-dire, quand notamment toute cette forme dont tu as parlé et dont vous avez parlé tous les deux, en fait, qui est la forme de... donner la parole aux autres, parler au nom des pauvres, recueillir les témoignages et donc leur donner une autorité, c'est une forme en fait qui est un peu notre forme actuelle, la forme un peu du consensus esthétique actuel, donner la parole aux pauvres, restaurer des formes d'égalité justement dans les voix. Mais bon, on a parlé de saturation des chiffres, il y a aussi une saturation des voix. C'est pas parce que ces voix on les entend dans la littérature qu'on les entend vraiment. Donc, il me semble que là, il y a une petite limite, mais qui se pose simplement, effectivement, au niveau de l'efficacité.
Il y a un symptôme, quand même, de la difficulté de cette question, c'est que, sur laquelle je travaille aussi pas mal, mais c'est que ceux qui croient le plus en l'efficacité de la littérature, ce sont les régimes autoritaires ou totalitaires,
Et ça, enfin, pour avoir travaillé sur la démocratisation, il serait très intéressant d'observer la crise de l'exemplarité littéraire ou la crise de l'idée d'efficacité politique du littéraire à partir du moment où le régime politique tend à sortir d'un contexte autoritaire. Alors, c'est toujours une mise en garde vis-à-vis de toutes les idéologies de l'efficacité de la littérature pour nous, je crois, dont il faut tenir compte. Parce que sinon, il y a toujours une réponse à la Diogène, c'est-à-dire que pour moi, enfin, la littérature opère une très grande efficacité sur ma vie, enfin, modifier ma vie radicalement, elle influe sur ma vie radicalement. Alors voilà, ça je peux le dire, dire que la littérature influe sur la vie parce que c'est vrai pour moi. Maintenant, sur le plan sociologique, politique, moral, les choses sont quand même beaucoup plus compliquées.
C'est...
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'elle dit, Marianne?
Oui. Oui, sauf que les lecteurs qu'elle prend sont des lecteurs très, très, très particuliers. C'est-à-dire que là aussi, ce sont des lecteurs qui, d'emblée, sont un certain type de lecteurs. Donc ça ne résout pas entièrement la question.
Ce que dit Emmanuel rejoint le propos de Calvino lorsqu'il dit que l'importance et le rôle de la littérature dans une société se mesurent aux sommes dépensées pour la surveiller, pour la contrôler ou pour l'interdire. Alors il faudrait, cela dit, être fou pour déplorer la situation libérale qui fait que dans les démocraties occidentales, dit ce même texte, on publie tout, n'importe quoi et dans l'indifférence générale, évidemment. Mais je crois, par rapport surtout à la question de Raphaël, je voudrais répondre vraiment très brièvement sur un point. Il me semble que ce que ces textes disent par rapport à ces situations qui sont décrites comme des situations d'exception, c'est qu'aujourd'hui, peut-être le politique se pense, et d'ailleurs, Rancière le dit de manière quasiment littérale dans le titre même, d'au bord du politique, se pense à partir de sa marge. C'est-à-dire que c'est au fond une manière de ressaisir à travers cette question, les questions de ce qui fait exception, la possibilité de projeter. Et là, on retrouve je ne sais pas si on peut appeler ça une utopie, mais en tout cas, cette vision projective du politique, de projeter la communauté, une communauté à venir. Voilà.
C'est vraiment une question intéressante, celle des raisons qui peuvent pousser des régimes autoritaires ou tyranniques à interdire certaines œuvres. Si, comme je le prétends, elles n'ont aucune importance mineure, pourquoi faudrait-il les interdire? Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? D'abord, qu'il n'y a que dans ce genre de débat, comme celui que j'ai rencontré autour de la pornographie, que les acquis de la psychologie moderne, c'est-à-dire qu'on ne voit pas une œuvre sans filtre cognitif, c'est-à-dire que d'une certaine façon, on ne voit que ce qu'on a envie de voir, etc. On interprète d'après notre passé, notre éducation, nos habitudes, comme dirait Bourdieu. C'est une conception qui rejette le behaviorisme classique, c'est-à-dire qu'on voit quelque chose et hop, on a envie de l'imiter. C'est ce qu'on dit, l'argument « monkey see, monkey do ». On voit et on fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement exclu, sauf quand on aborde des questions comme celle de la littérature. Alors à ce moment-là, on retrouve cette idée que si on lit quelque chose, ça va nous changer. Je pense qu'on pourrait faire des interprétations différentes quant aux interdictions de certaines œuvres. Je ne pense pas que lorsque le régime hitlérien brûlait des œuvres, c'était pour des raisons, pour par exemple éviter que les gens deviennent antiracistes. Ça serait complètement absurde d'imaginer que si le gouvernement chinois contrôle, c'est parce qu'il a peur que les gens, à cause de ça, deviennent d'un coup démocrates. Je pense qu'ils savent que les racistes, on les convaincra pas avec un ouvrage antiraciste. Ils savent aussi en même temps que les antiracistes peuvent être confortés dans leurs idées par certains ouvrages. Donc c'est plutôt l'idée qu'il ne faut pas conforter ceux qui sont contre nous. Je ne pense pas qu'il y ait là une histoire de conversion. Qu'est-ce que vous en pensez?
La question est vaste. Non, je voulais repartir sur cette question de la censure et constater peut-être que les régimes totalitaires ne censurent pas uniquement les œuvres qui parlent de la société, au fond, qui disent quelque chose de notre condition commune. Mais ce qui me frappe, c'est que, par exemple, dans les grands autos d'affaires, le régime hitlérien a détruit les tableaux abstraits. par exemple. Au fond, c'est un, véritablement quelque chose qui est d'un autre ordre, hein, qui est ici visé, qui peut-être de cet ordre qu'on évoquait aussi ce matin, à figurer imaginairement un autre type de représentation, tout simplement. Hein. Alors, bon, ça paraît formulé comme ça très, très rapidement, très... Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Non, non, mais je pense que c'est très important d'envisager la question comme vous l'avez fait, sous l'angle de la censure, et qu'est-ce que cherchent les gouvernements lorsqu'ils interdisent certaines œuvres littéraires ou plastiques.
Une forme d'imaginaire qui ne relève pas forcément de l'idée qu'il y aura, en quelque sorte, un rapport mimétique au texte.
J'ai le droit de poser.
Ouais. On n'a pas répondu.
Il
ouais.
Y en a encore une après. On a 5 minutes.
Ouais. Deux dernières
questions. Ouais. Bon, la question sera plus brève, même si son implication l'est peut-être moins. C'est par rapport à ce que tu disais, Jean-Paul, justement, de l'opposition entre la représentation de George Sand des pauvres, dont tu as bien montré que c'était un récit qui reconduit les inégalités, même s'il projette une... Et puis, par rapport à cette opposition entre bonne et mauvaise, et entre juste et injuste, encore une fois, est-ce qu'il ne faudrait pas historiciser cette notion de la représentation juste et injuste, et penser que finalement... Aujourd'hui, la représentation des voix, du recueil des voix, est une autre forme du juste, mais qu'au fond, à l'époque de George Sand, la représentation de George Sand était peut-être adéquate à la forme du juste telle qu'elle se formule dans le contexte politique et littéraire de George Sand. C'est-à-dire comme on le voit chez Michelet aussi. Enfin, on peut critiquer de notre point de vue, justement, maintenant, les représentations de Michelet. Mais... Je ne te reproche pas de le faire. Je te demande s'il ne faudrait pas opposer deux formes de juste, plutôt, ou historiquement, plutôt que...
D'abord, je n'ai pas dit qu'il y avait une représentation juste et une représentation injuste.
Non, c'est moi qui le dis. Je
n'ai pas dit qu'il y avait une bonne représentation et une mauvaise représentation. Je n'ai pas dit qu'il y avait une représentation adéquate et une représentation inadéquate. J'ai dit qu'il y avait deux types de représentation de l'égalité en littérature. Et j'ai essayé d'opposer, alors, de manière anhistorique et théorique, ces deux types de représentations qui sont historicisées chez Rancière. Quand Rancière parle de la poétique classique comme la poétique de la représentation, il en fait une poétique de l'âge classique et qui dure jusqu'au romantisme. Et il voit dans le romantisme d'Iéna le point de départ d'une poétique qu'il appelle esthétique, qui est un autre mode de visibilité des arts. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer qu'il y a des survivances de la vision classique et hiérarchique des choses à l'intérieur d'œuvres romantiques et post-romantiques, qu'il y a des survivances dans de la bonne littérature comme dans de la mauvaise littérature, d'un mode de pensée ancien à l'intérieur des littératures modernes. Donc j'ai, d'une certaine manière, déshistoricisé ce que l'auteur dont je me réclame voit comme un procès historique. Mais ça ne veut pas dire que je le pense tout à fait en dehors de l'histoire. Simplement, il peut y avoir des rémanences de modes de pensée anciens dans les littératures modernes. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, ça veut pas dire pour autant que le roman de George Sand est un mauvais roman. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Ça me fait revenir à ta question d'avant. J'ai pas dit non plus qu'il s'agissait pour la littérature de parler au nom des pauvres. Et j'ai bien dit, même si je l'ai dit rapidement, que Lydie Salvert parlait au nom d'un personnage fictif et qu'il n'y avait qu'au nom d'un personnage fictif qu'elle pouvait parler.
Non, mais t'as dit que l'écrivain a raconté des histoires qui me font résonner des paroles.
La parole d'un personnage fictif. Le personnage fictif que Lydie Salvert aurait pu devenir si la littérature ne l'avait pas sauvée. Et dans l'histoire qu'elle raconte d'elle-même, comment elle est devenue écrivain et donc comment la littérature l'a transformée et a fait effet sur elle-même, il y a la fable du livre qui sauve la fille du peuple, qui est une fable que Rancière raconte aussi dans ses histoires.
La fable du livre qui perd.
Oui. Là, c'est tout. À l'envers, le livre l'a sauvé. Ce qui veut dire qu'on parle, la littérature, elle parle beaucoup moins au nom de qu'elle ne parle devant. Ça, c'est une formule de Volodine. Parler pour le peuple, parler pour les animaux, parler pour les pauvres, ça veut moins dire parler au nom des pauvres, parler au nom des animaux, parler au nom du peuple, que parler devant, c'est-à-dire être responsable devant.
Alors, la toute dernière question.
Oui. Ouais. Moi, je voulais juste revenir sur le début de votre intervention, madame Baron, vous avez parlé. Que tout le monde m'entend bien.
Oui, oui, ça va.
C'est obligé.
Ah, d'accord. Bah, désolé, alors je vais parler dans le micro puisque c'est obligé et que je respecte ce qui est obligé. Oui. Vous avez, je crois, si j'ai bien compris, confondu les notions de sans-papiers, migrants, immigrés et réfugiés. Et ça me paraissait un peu étrange vu que dans la légitimation de l'immigrant, le statut de réfugié, ce n'est pas du tout le même que celui de sans-papiers. Et que si on peut tracer une frontière avec le concept de citoyenneté entre ceux qui ont une existence légale ou ceux qui n'en ont pas, autant le terme sans-papiers, il est clairement à l'extérieur de ce cercle et il est la figure de l'exclu et il a une connotation péjorative. Autant le statut de réfugié, c'est typiquement le bon pauvre. Mmh. C'est celui qui a une existence reconnue, légale, et même confortée dans certains aspects, puisque ça ouvre certains droits qui sont à peu de choses près les mêmes que pour les nationaux. Mmh. Et du coup, c'est pas du tout les mêmes processus, il me semble, et que l'utilisation de la vie nue, elle s'applique beaucoup plus aux sans-papiers, et ce que vous appelez les tracasseries administratives, qu'on pourrait même qualifier de persécution, ça concerne plus spécialement les différentes catégories de migrants auxquelles veulent prétendre les gens qui sont avant ça sans papier, mais pas les réfugiés, puisque la Convention de Genève, c'est justement ça qui donne le droit d'avoir des droits et qui protège contre les interventions de l'État, même si ça ne réussit pas forcément.
Oui. Alors précisément, vous avez prononcé le mot-clé à la fin de votre question, qui protège contre les interventions d'État. Ce que j'ai pris, bon, d'abord, il faut prendre en considération peut-être une forme de précipitation, effectivement, dans la rédaction de cette introduction qui a conduit à l'impression que j'avais confondu les trois éléments. Il se trouve que, parfois, ça a été, en tout cas, dans l'histoire proche, ces catégories ont été poreuses. Par exemple, les sans-papiers, jusqu'en 2003, tous les gens qui n'étaient pas persécutés par un État, mais qui étaient persécutés par une mafia, n'étaient absolument pas reconnus comme ayant accès au statut de réfugié politique. Et donc, il y a une transformation du droit, je dirais grosso modo de 2000 à 2010 à peu près, dont je ne peux pas là vous donner le détail, mais en tout cas, bon, je me souviens au moins de cette étape, qui fait que tout à coup, je veux dire, des gens qui étaient en situation absolument irrégulière et de manière irréparable ont pu obtenir une régularisation. Donc, bon, effectivement, hein, on peut discuter. Oui. Voilà, il y a ce temps d'attente, ce temps de latence qui est mis en scène d'ailleurs par un certain nombre de textes.
Non, bah, ce qu'on se disait alors conjointement, c'était probablement le fait que le statut de réfugié, c'est l'aboutissement d'un processus qui fait revenir de l'autre côté de la ligne de démarcation et qui donne un certain nombre de droits. Le réfugié, c'est celui qui a obtenu l'asile et qui a réussi ce qu'il voulait, quoi. C'est pas le demandeur d'asile.
Oui, en fait.
Et le sans-papier, c'est vraiment là, il y a quand même une différence majeure, quoi.
Rien que dans les cas de figure sont évoqués dans les textes. Il y a des gens qui réussissent dans cette longue marche qui est décrite. Il y en a qui échouent. Bon, c'est un point effectivement que j'ai pas eu le temps d'aborder. Mais
justement, rien que dans les termes utilisés pour ces personnes à la marge, il y a quelque chose de très intéressant dans l'évolution. C'est qu'au départ, on parlait pas de sans-papiers. Il y a quelques années, on parlait de personnes de clandestins. Et les clandestins, le terme de clandestin est un terme qui a été renié par les associations et par les personnes étrangères, parce qu'il avait une connotation justement illégale, de voyous, extrêmement négatif. Et du coup, ça a été un combat pour que le terme de sans-papier soit accepté comme n'ayant plus cette connotation-là. Sauf que maintenant, le terme de sans-papier marque un état de personnes, alors qu'en fait c'est juste une situation qui n'est pas constante, parce que les personnes passent de situation régulière à irrégulière de manière constante, contrairement aux personnes qui obtiennent le statut de réfugié, le statut de réfugié, je crois, qui est définitif. Et du coup, justement, ça, c'est ça qui est intéressant par rapport aussi à ce que vous disiez sur le fait que c'est des personnes qui sont en marge de l'État, c'est que les personnes qui sont en situation régulière, qui obtiennent, enfin peuvent redevenir à tout moment par l'État, enfin des sans-papiers, c'est que les personnes étrangères, tant qu'elles n'ont pas la nationalité française, elles peuvent à tout moment rebasculer sur ce statut-là.
C'est une des raisons de cette apparente confusion, c'est que la situation est réversible. Et d'ailleurs, un des récits que je n'ai pas eu le temps d'aborder, dont j'avais prévu de parler dans la fin de ma communication, évoque ce cas d'une personne qui était tout à fait légalement sur un territoire, qui se retrouve du fait de l'expiration, de la date d'expiration de son visa de travail, je crois, en situation irrégulière. Donc.
Mais vous ne devriez peut-être pas dire en marge de l'État, parce qu'elles sont encore plus exposées à l'État que des personnes qui ont des droits.
C'est ce qui crée justement différents niveaux d'exposition entre les personnes étrangères réfugiées, les personnes étrangères en situation régulière, les personnes sans papier et les... Mais du coup, qui annihile un peu la distance entre citoyens et non-citoyens.
Le mot de conclusion, je laisse le mot de conclusion à Raphaël avant de remercier tout le monde.
Merci à tous d'être venus. En fait, je voulais juste dire, pour rebondir sur ce que vous disiez, que ce soir, on a une projection cinématographique sur les migrants de Calais, donc précisément sur cette situation... des sans-papiers et des sans-droits, donc à 20h30 au TAP, la séance est à 5 euros. Je crois que le film est très long, 2h30 ou quelque chose comme ça, mais que cela ne vous décourage point. Oui, c'est vrai, j'aurais pas dû le dire. Ce sera en présence du réalisateur. On discutera après avec un débat organisé et animé par Marie Martin, qui est maître de conférence en cinéma à Poitiers. Et voilà, c'est du cinéma militant, politique, rancierien, comme mais compliqué par rapport à Rancière, qui devrait prolonger le propos de cet après-midi. Et donc j'espère que vous viendrez nombreux, que vous amènerez tous vos amis, puisque le TAP, comme vous savez, c'est grand, et qu'on pourra continuer donc cette discussion après le film. C'est vrai, t'as raison, j'aurais pas dû dire tout qu'il durait longtemps. Mais bon, je l'ai dit, tant pis.
Bien, merci en tout cas aux intervenants de cette table ronde.